courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21 juin 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 22 juin dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Ce soir, une émission d'un genre nouveau. On a décidé, tous ensemble, pour une fois qu'on est d'accord sur quelque chose, de faire une émission entre nous. On a même été d'accord sur le nom de cette émission, puisqu'on a décidé de l'appeler le clan de la presse. Alors, cette émission réunit donc les directeurs des principaux journaux de la presse nationaliste ou nationale ou patriote. Je ne sais pas comment on peut dire, enfin, la presse qu'on aime, quoi, voilà, française. Jean Madiran n'est pas là ce soir pour des raisons personnelles, mais c'est purement circonstanciel et il sera là, je l'espère, il me l'a promis, lors de la prochaine émission qui se passera dans un mois. Ce soir, autour de cette table, Marie-Camille Gallic, qui est directrice de Rivarol.
Bonsoir.
Bonsoir Marie-Camille. Claude Giraud, qui est directrice de Mondeville, que vous connaissez puisqu'elle a une émission sur Radio Courtoisie tous les 15 jours.
Toutes les trois semaines. Bonsoir.
Bonsoir Claude. Jean-Claude Varane, qui est directeur de National Hebdo. Bonsoir Monsieur Varane.
Bonsoir. Merci de m'avoir invité.
Je croyais que vous boudiez.
Non, je ne boude pas, au contraire, je suis ravi d'être là. Je pense qu'il est nécessaire qu'effectivement notre presse nationaliste se rassemble sur le thème, surtout de l'identité française, qui est absolument à l'ordre du jour. Merci.
Emmanuel Ratier, qui est directeur de Faits et Documents.
Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel. Victoria, qui est là, qui est directrice de...
Bonsoir, je suis directrice des petits affiches.
Directrice d'école.
Et puis,
j'ai invité, alors ça me paraissait vraiment une idée qui s'imposait, le plus ancien dans le grade le plus élevé, François Brignot. Bonsoir François.
Bonsoir.
Merci d'être venu, parce que je sais que vous êtes un peu comme comme on dit, le vieux maître sur sa colline, le sage sur la colline.
Surtout ce soir, parce qu'il y a un match de l'équipe de France.
Ah, ça c'est héroïque, alors. Ça c'est carrément héroïque. Voilà.
Quelle heure?
Pas de football.
20h et des poussières.
20h45, cher frère.
Et puis, je viens quand même d'apprendre une très bonne chose, c'est que Jean-Claude Varane ne boudait pas.
Ah, c'est bien.
Mais c'est un homme de boudoir, mais c'est pas un homme qui boude, c'est bien certain.
Ah, c'est joli.
C'est joli.
Jean-Claude.
Ah, Jean-Claude,
on saura tout.
Bon. On ne s'étendra pas sur cet aspect quand même extrêmement privé, sur ce jeu privé, ce private joke.
Il n'y a pas de privé pour les hommes publics.
Est-ce que Jean-Claude est un homme public, c'est ça?
Bon, allons, c'est un élu.
Un élu du peuple?
Je suis un élu du peuple. C'est
toutes mes félicitations, mon cher jeune camarade. Je suis très attaché au respect de la démocratie. Alors, et surtout des gens qui sont élus. Élus. Le peuple des élus est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, je me tourne donc vers mes confrères. Et je leur pose la question, quels sont, dans les jours qui ont précédé, parce qu'on ne va pas refaire le mois, encore que si quelqu'un d'entre nous veut parler d'un sujet un peu ancien, il en a la licence, quels sont les événements récents qui vous ont frappé le plus? Je crois qu'on peut consacrer quelques mots, bien qu'on ait tous dit à peu près tout ce qu'on pouvait en dire, consacrer quelques mots à la visite de Bouteflika.
Oui, mais enfin, lorsque le président de la République, M. Chirac, développe un tapis rouge de 250 mètres pour accueillir quand même un homme...
234.
Oui, 234.
Ça, c'est Camille.
Je rallonge de quelques centimètres, mais je trouve que c'est une honte.
C'est pas 6 millions, de toute façon.
Pardon?
C'est pas 6 millions, de toute façon.
Et du reste, ce qui est assez drôle, c'est que le président tunisien en a même été vexé. Il a fait une petite conférence de presse en disant « Moi, je n'ai pas été reçu comme ça ».
Il aurait téléphoné à Chirac pour se plaindre que pendant que lui tenait la baraque en Tunisie et que Bouteflika battait les estrades, il n'y en avait que pour Bouteflika et que la Tunisie et lui-même étaient traînés dans la boue.
Quelle a été la longueur du tapis de Le Cafieux, le premier secrétaire du parti communiste vietnamien, qui était là il y a à peine un mois, qui a eu aussi un tapis rouge. Alors, les amateurs Camille Gallic de métrage, quel était le tapis le plus long? Enfin, Le Cafieux,
je ne sais pas, mais je voudrais rappeler qu'il y avait eu également le tapis rouge pour Mugabe. Quand Mugabe est venu en 99, le même Mugabe qui dit maintenant à propos des fermiers blancs dans les fermes sont occupés, s'ils résistent, nous les tuerons. Je crois que c'est de la purification ethnique où je ne m'y connais point.
Est-ce que vous avez une opinion sur les motifs pour lesquels Bouteflika est venu vraiment? Parce qu'il n'a pas fait ce voyage pour une simple affaire de marchand de tapis.
Il a quand même réussi à repartir avec une ardoise effacée de 400 millions. Et en plus de ça, en nous insultant.
Invraisemblable. Il est venu chercher des sous.
Je crois qu'il retourne surtout. Il a été reçu avec des honneurs extraordinaires. Et c'est une visite à usage interne à l'Algérie. Nous avons été simplement les faire valoir. Loire et les tréteaux où s'est déroulé son show.
Mais est-ce que dans le contexte actuel de l'Algérie, c'est un bon point d'être considéré comme un ami de la France?
Je crois que ça ne change pas grand-chose pour l'état actuel de la population algérienne, dont on sait, ça a été dit, d'ailleurs on a donné des chiffres au cours de la dernière émission de Jean Ferré, ça a été dit, il y a un chômage invraisemblable. L'Algérie qui était une terre, enfin du temps des Romains, on appelait l'Algérie le grenier de l'Afrique. Ne produit plus rien. On importe des tomates et des moutons en Algérie. Les Algériens n'ont pas de travail, crèvent de faim. Ce qui avait été fait pendant un siècle et demi a mis 38 ans pour disparaître. Toutes les terres sont retournées en friche. Alors, vous savez, l'accueil et le tapis rouge pour Monsieur Bouteflika, c'est pas ça qui va donner à manger aux jeunes Algériens et c'est pas ça qui va leur couper l'envie d'immigrer.
Non.
On en aura toujours autant sur le dos.
Moi, je crois ce qui est...
François Bonneau, si vous voulez, parlez bien dans le micro.
Ce qui est qui me semble important, c'est pas Bouteflika. Parce que Bouteflika, il joue son rôle. Il vient chercher des sous, il vient chercher de l'aide. Il vient chercher des une espèce de caution bourgeoise. Et il crache au visage de la France en même temps. Et les députés qui l'écoutent ne s'essuient même pas le visage et ne disent rien. Ce qui me semble insupportable, c'est que ce soit les hauts dignitaires français qu'il ait invités. Lui, il est dans son rôle de quémandeur et d'insulteur et de non. révolutionnaire contre nous. Mais nous, qui l'acceptons là, et sur les 400 ou 500 députés qu'il y avait là, qu'il n'y ait pas un qui se soit levé et sorti en silence. Il était l'invité. Nous sommes des gens polis. Il ne pouvait pas l'insulter. Mais il pouvait dire, je ne peux pas entendre davantage et sortir. Il n'y a pas eu quelqu'un qui se soit levé. Il n'y a pas eu quelqu'un à Verdun qui soit allé là. On pouvait très bien lui dire à Verdun, enfin quelques mots là-dessus, quand même. Parce que il n'a pas le droit de parler des soldats français, puisque les harkis c'était des soldats français, et il les a fait égorger, lui ou les siens. Eh bien, c'est ça qui me bouleverse le plus. Je m'en fiche, mais ce que je m'en fiche pas, c'est Chirac. Et c'est Jospin, et c'est cette cohabitation insupportable dans cette reconnaissance des gens qui nous ont tués, parce qu'on oublie toujours quand même le cercueil ou la valise, on oublie Mélouza, on oublie Saïda, on oublie les bombes des lampadaires, on oublie le casino de la Corniche, on oublie tout ça, on oublie les attentats en France, on oublie ce climat de terreur, on oublie la trahison française, pour eux déjà. Et c'est ça, c'est dans une atonie prodigieuse, il y a nos petits journaux, bien sûr, mais ça va pas plus loin.
Ce qu'on oublie aussi, François Brignot, et dans toute la presse, et malheureusement pas mal dans le pays, c'est que Bouteflika n'est pas à nouveau venu. Dans le contexte algérien, il a été un des plus jeunes chefs FLN, c'est-à-dire qu'il était parmi les tueurs. Alors, il a bonne mine maintenant, et on a bonne mine de le recevoir. Quant au monument aux morts, vous avez très bien fait de parler de Verdun. On aurait pu lui rappeler aussi que tous les monuments aux morts qui se trouvent en Algérie et qui étaient dédiés aux monuments des deux guerres ont été bétonnés. Alors, il a fallu qu'il vienne à Verdun pour en trouver un.
Il y a une chose qui m'a quand même beaucoup frappée dans ce voyage, c'est l'axe entre le gouvernement algérien et la communauté juive de France. Ça avait été préparé par de multiples entretiens, des réunions d'ambassadeurs. Monsieur Hagenberg, président du CRIF, s'était rendu à l'ambassade auparavant. Il y est retourné pour rencontrer Bouteflika. Il y a eu un grand colloque dont Bouteflika a été l'invité d'honneur organisé par la revue Passage que dirige Monsieur Mallet, qui est également le directeur de Radio Shalom. La revue Passage se vante de poser un regard juif sur 5460 ans d'histoire, je crois. Ça a été précédé par les articles de Benjamin Stora, de Raphaël Drey. Il y a eu toute une mise en scène, et à la sortie de son entretien, Hagenberg a dit Monsieur Bouteflika nous a dit que Israël n'était pas l'ennemi de l'Algérie.
Ça, c'est très étrange.
Bon, je trouve ça très étrange. Ouais. Très étrange.
Oui, parce que je savais pas que M. Hagenberg
se présentant comme le représentant des Juifs d'Algérie, qu'il évalue à 250 000, ne retienne comme phrase que les relations algéro-israéliennes. Un contentieux entre les Juifs d'Algérie et le pouvoir barbaresque d'Algérie. Qu'en est-il de ce...
De toute façon, si Bouteflika voulait avoir des relations diplomatiques avec Israël, il fallait qu'il voit un diplomate israélien, et ainsi au moins un citoyen israélien. Pour autant que je sache, M. Hagenberg n'est ni l'un ni l'autre.
Il fallait peut-être aussi faire oublier l'affront au chanteur Enrico Macias.
Oui.
Parce que s'il n'a pas été chanté, c'est parce que le président de la République, qui fait maintenant allégeance à l'État d'Israël, n'a quand même pas imposé qu'il soit reçu. Et ça sert.
Oui, d'ailleurs, ça montre bien la réalité de ce problème. C'est-à-dire que s'il n'a pas imposé qu'il soit reçu, c'est parce qu'il y avait des oppositions tellement radicales et tellement fortes que lui-même, président, n'a pas pu imposer à l'armée la présence d'un
Enrico Macias. Il venait d'y avoir les incidents de Birzeit avec Lionel Jospin.
En plus, oui. Voilà, alors ça mérite... Oui, Emmanuel Ratier.
Oui, enfin, je crois que par-delà les actes symboliques et ce genre de choses, Pierre de Villemarais en parle de temps en temps, etc. Bon, ce que Bouteflika vient chercher en France, c'est un soutien armé, militaire, c'est-à-dire de l'armement, du pour le maintien de l'ordre, qui est vendu par des sociétés françaises, et toute une partie de l'encadrement actuellement des troupes et de la police... algérienne, il y a un encadrement français effectué par les services secrets français, une partie des services militaires, etc. Et il suffit de voir les photos de répression en Algérie contre les militants islamiques pour voir qu'ils sont équipés pratiquement exclusivement
tout l'équipement du contre-terrorisme d'État,
des blindés français, etc.
Les hélicoptères de surveillance français.
Et pendant qu'il était en visite en France, on nous dit que ça va beaucoup mieux en Algérie. Mais enfin, il y a bien eu 70 ou 80 personnes qui ont été égorgées. Et il ne se maintient au pouvoir, mais ses prédécesseurs, depuis qu'il y a eu le refus d'admettre la potentielle victoire des islamistes au second tour aux législatives il y a déjà quelques années, l'ensemble des personnes qui se sont succédées à la tête du gouvernement algérien sont toutes, en fait, dépendent toutes du clan des militaires. Bon, alors quand on nous dit qu'on lui a remis une partie de sa dette, en fait, ce sont des crédits militaires que se séparent soit les militaires qui transportent en fait ensuite les valises dans des comptes en Suisse, soit l'essentiel sert au maintien de l'ordre en Algérie. Et s'il n'y avait pas le soutien français, le gouvernement algérien aurait été balayé depuis fort longtemps.
Alors ça pose un double problème. Ça pose d'abord le problème du financement de ces affaires, c'est-à-dire ça c'est du fric qu'on leur donne nettement, parce que c'est évident que si on leur a fait remise de la dette, c'est pas pour leur facturer l'armement qu'on leur livre ensuite. Et donc ça c'est les contribuables français qui sont en train d'équiper le contre-terrorisme, le terrorisme d'État algérien. Et la deuxième chose, c'est que ça implique directement la France dans une guerre intérieure à l'État algérien, avec toutes les conséquences possibles à court terme, quand on sait que les banlieues françaises sont littéralement noyautées par l'islamisme, et que dans toutes les mosquées, enfin dans beaucoup de mosquées des banlieues, il y a un discours islamiste, disons, dynamique, pour rester dans des understatements ou des euphémismes délicats qui circulent, le jour où, comme le dit Bijard, on va venir à Bijard tout à l'heure, comme le dit Bijard dans Le Monde, le jour où les banlieues vont péter, c'est évident qu'on va se trouver dans une situation extrêmement difficile parce que les jeunes islamistes qui sont actuellement dans les banlieues, ils vont faire en plus à l'État français le reproche d'avoir armé les tueurs d'islamistes en Algérie. On n'est pas sorti de l'auberge. Je crois que véritablement l'irresponsabilité des dirigeants de la mafia dirigeante en France est énorme dans cette histoire.
Le rôle du ministère de l'Intérieur est fondamental dans cette affaire, à la fois pour tout ce qui est équipement, vente de matériel qui passe nécessairement par eux, et pour une fois c'est pas tellement des matériels militaires, en fait c'est des grenades, des pistolets, des grenades, du maintien de l'ordre. Et puis la deuxième, c'est que en France il y a des arrêtés d'interdiction qui sont pris, tous les révisionnistes le savent bien, ou les gens qui changent un peu qui décident d'être non politiquement corrects, leurs ouvrages sont systématiquement interdits, mais dans la catégorie il y a toutes les revues islamistes algériennes qui pourraient sortir en France ou qui sortent, qui sont interdites dès le premier ou le deuxième numéro, et il y en a eu des dizaines. Et ça, c'est évident, ça attise les représentants islamistes opposants au régime algérien qui sont en France. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de responsables de mosquées qui sont actuellement assignés à résidence. Ça fait 7 ans qu'ils sont assignés à résidence. Pourtant, on les continue à les laisser parler, mais ça, c'est le gouvernement français qui a décidé de soutenir à fond le gouvernement algérien. Et la question clé, elle est là, c'est pourquoi
On pourrait peut-être quand même attirer l'attention, c'est que c'est l'arrivée de l'Algérien en France conforte quand même la communauté algérienne en France. Et qu'effectivement, on peut s'attendre qu'elle se ressoude entièrement et que nous ayons des événements quand même très importants menés par les communautés islamiques et peut-être soutenus par le gouvernement algérien.
Je pense qu'il y a, Serge, si vous permettez, un aspect, un des aspects de la visite de Bouteflika, je ne dis pas monsieur, c'est volontaire, que nous n'avons pas encore abordé, c'est son souhait de voir revenir en Algérie des Français ou des pieds noirs.
Non fichés.
Non fichés, ni harkis, ni anciens OAS, pour la mise en valeur de l'Algérie. Alors, moi je dis pourquoi pas. Il a tout à fait raison. Je pense qu'il y a des tas de gens qui seraient très contents de retourner en Algérie. Pas n'importe lesquels, hein, parce qu'il y a une bonne partie des métropolitains qui se sont toujours désintéressés du problème algérien, qui continuent à s'en désintéresser. Mais les autres, alors qui reviennent, seulement tous ces gens-là, il va falloir assurer leur sécurité. Ils vont pas venir comme ça. Il va falloir des troupes. Or, l'armée algérienne a bien démontré qu'elle est absolument incapable d'assurer la sécurité, que ce soit dans les villes ou dans les bleds. Donc, vous parliez tout à l'heure de Pierre et Emmanuel Ratier des armements. Bon, au lieu d'envoyer des armements, il faut envoyer l'armée française.
Quelle armée française?
L'armée française doit retourner en nombre, en matériel et en hommes, ce qu'il en reste avant qu'il ne reste plus rien.
Attendez, c'est peut-être une idée, effectivement, pardon de vous couper avec l'autre.
Mais oui, aller protéger...
Les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes originaires...
Ah non. Les jeunes.
Les jeunes qui font leur service militaire en France, on pourrait les envoyer là-bas.
Voilà, et puis au bout d'un moment, on va peut-être amorcer une reconquête.
Non, c'est pas utile.
Il faut savoir sur les jeunes, justement. Bon, on considère qu'assez souvent, il y a beaucoup de binationaux, on dit toujours, qui effectuent leur service national en Algérie et pas en France, et on est assez surpris. Bon. Et en fait, bon, il y a une enquête qui a été conduite, qui paraîtra peut-être, là. J'ai eu quelques renseignements dessus. Mais en fait, c'est que c'est extrêmement facile. On va voir le représentant algérien à l'ambassade, on lui offre un bac chiche, et vous signez un document comme quoi vous avez fait votre service national en Algérie.
Ça, bon, c'était valide.
La France, voilà.
Bon, c'était valable juste tant qu'il y avait un service militaire en France.
Et donc, en fait, on disait qu'il y avait énormément de binationaux qui allaient en Algérie, ils restaient sur le sol français.
Il faut les renvoyer, ceux-là.
Par un hasard extraordinaire, on publie dans Le Monde d'aujourd'hui, daté donc de demain, une grande page sur la nouvelle affaire Massu. Alors, moi, je ne peux pas croire à une pure coïncidence, c'est-à-dire que le lendemain de la visite de Bouteflika, une femme algérienne dise « Moi, j'ai été torturée par l'armée française sous les yeux de Massu et de Bijar, et je réclame, sous prétexte d'ailleurs de retrouver l'homme qui lui aurait sauvé la vie. » En fait, tout ça va finir, selon la bonne habitude, par la réclamation de quelques indemnités sonnantes et trébuchantes. Alors, je voudrais savoir si vous avez un éclairage particulier sur cette affaire, des informations ou des opinions.
Aucune, sauf que la dame...
Sur Massu, peut-être.
Et la dame à qui Le Monde accorde si gentiment ses colonnes, il y en avait une, je ne sais pas si c'est la même, il y a quelques jours. On ne sait pas pourquoi elle était arrêtée et torturée, car c'était probablement une poseuse de bombes. Et ça, on ne le dit pas. On parle que de la torture. La dame en question, d'ailleurs, ayant été assez mise à mal, a été récupérée par un médecin militaire qui passait par là et qui l'a fait conduire à l'hôpital ou dans une infirmerie pour la soigner. Elle en éprouve une grande, grande reconnaissance et à l'heure actuelle, elle dit qu'elle aimerait bien retrouver ce médecin militaire.
Oui, mais alors justement, il y a une question qui se pose, Claude. On n'arrive pas à retrouver ce médecin. Moi, je
croyais qu'il est mort, je crois. Il a été égorgé par le FLN.
Ah, c'est ça. Bon.
Non, mais moi je voudrais quand même attirer l'attention, c'est que le général Massu avait quand même tout pouvoir à cette époque-là, et que lorsqu'on fait la guerre, on fait la guerre. Et je ne vois pas maintenant pourquoi il a l'air de regretter ce qu'il a fait. Hein, on était en guerre à ce moment-là, et bien, les conséquences de la guerre fait qu'on interroge, oui. Mais je trouve que l'attitude du général Massu, là, n'est peut-être pas très, très fière.
Bah, je crois que je suis la seule ici à avoir vécu ces événements, et notamment les attentats terroristes qui se sont produits, qui ont conduit à la bataille d'Alger. Si je comprends bien, en se repentant pour la torture, Massu se repent du fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment de bombes et donc suffisamment de victimes. Cela dit, je pense que beaucoup de gens ne se font plus guère d'illusions sur Massu depuis les barricades et 1960. Donc, bon, maintenant, il gatouille paix prématurée à ses cendres.
Je voudrais quand même revenir sur l'affaire elle-même, parce que quand on lit Le Monde, moi, j'essaie de faire fonctionner l'espèce de bouillie que j'ai à l'intérieur de la boîte crânienne. Et alors, qu'est-ce que je lis? Je lis ça. Voilà. Deux points, ouvrez les guillemets. Cette jeune Kabyle, âgée de 20 ans à l'époque des faits, expliquait qu'elle avait été transférée, grièvement blessée à l'état-major de la 10e division parachutiste de Massu, au Paradou Hydra, un quartier de la capitale. Louisette Iguilarziz a passé là 3 mois, ouvrez les guillemets, allongée nue, toujours nue, et a été torturée pratiquement sans interruption de fin septembre à fin décembre 1957. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique la chose suivante. C'est dommage, on a un médecin, mais il est dans la pièce à côté. Je voudrais qu'un médecin spécialiste de la traumatologie, ou de la blessure, la traumatologie guerrière, me dise comment une jeune fille de 20 ans, grièvement blessée, peut être nu sur un lit pendant, enfin sur un grabat certainement, de septembre à décembre, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. Pendant 4 mois, nu, torturé quotidiennement, sans interruption, alors qu'elle a été amenée grièvement blessée, et qu'à 63 ans, elle pète le feu pour nous expliquer tous les malheurs qui lui est arrivé. Je crois que quand même, quand on invente des carabistouilles, la moindre des politesses qu'on pourrait avoir à l'égard de ses interlocuteurs, c'est d'essayer de faire un tout petit peu plus vraisemblable.
Hein, c'est un petit peu comme la grève de la fin du journaliste du journaliste tunisien qui fumait des cigarettes en donnant des entretiens à la presse.
Ou celle des sans-papiers du Nord, qui en sont à leur 71e jour de grève. Les seuls qui aient jamais fait la grève, c'est les nationalistes irlandais qui étaient dans les prisons anglaises.
Et ils en sont morts.
Ils sont tous morts entre 65 et 70 jours. Et le corps humain tient à peu près 2 mois et demi et après c'est fini. Donc tous les gens qui sont à 71 jours, qui pèsent encore 60 kilos, ça veut dire qu'ils se mettent du thé du sucre dans le thé, qu'ils mangent des biscuits en cachette, etc. Et c'est du pipeau.
Je pense que Serge de Becquetch a raison de faire état de cet article du Monde, qui, bien entendu, moi je ne l'ai pas lu, Serge, vous l'avez lu, ne prend pas position fermement. Mais ça, c'est toujours la même méthode de désinformation, d'intoxication. Oui. Le Monde ne donnera pas son avis sur cette affaire. Il fait, soi-disant, son travail de journaliste, voilà. Il rapporte.
Alors, vous avez tout à fait raison, mais il le fait d'une façon, et justement, je voulais parler de ça, parce que ça me paraît vraiment un exemple parfait de la façon dont Le Monde travaille, ou dont certains travaillent au Monde. Il y a un article qui est intitulé « Marcel Bijard, général du cadre de réserve ». Deux points, voilà les guillemets. « Le témoignage de cette femme est un tissu de mensonges. Tout est faux, c'est une manœuvre. » Point, fermé les guillemets. Et cette interview recueillie par Florence Baugé du Monde est extraordinaire parce qu'elle fait ce que Le Monde ne fait pratiquement jamais, et ce qu'aucun journaliste ne fait pour des raisons évidentes, c'est pratiquement du mot à mot. C'est-à-dire que quand on publie une interview, vous êtes tous d'accord avec moi, je pense, on recueille les propos de la personne et on essaye de les rendre cohérents et de les mettre en français. Or, cette interview qui fait un tiers de page sur... enfin, un sixième de page, visiblement, est faite pour montrer que le général Bijard est totalement gâteux. Et c'est au point que j'ai dû la lire 3 fois pour comprendre si c'était Bijard qui parlait ou quelqu'un qui parlait de Bijard. Elle dit, voilà, alors, question, comment réagissez-vous au témoignage de Louisette Iguilarriz, publié par Le Monde? Réponse, ce papier est malvenu. Bijard reste un modèle pour la France. Vous faites mal à un type qui vit pour son pays. Je continue de recevoir des centaines de lettres se référant à Bijard, reconnaissant sa valeur et me disant « Heureusement que vous êtes là dans une période où toutes les valeurs sont parties en fumée. Un jour, vous allez voir, vous aurez des explosions dans les banlieues. Je n'étais pas au PC de Massu. Mon régiment était ailleurs dans Alger. Et le capitaine Graziani n'était pas chez moi. Il était chez Massu. Graziani était un excellent combattant. Le témoignage de cette femme est un tissu de mensonges. Il n'y a jamais eu de femme à mon PC. Il s'agit de démolir tout ce qu'il y a de propre en France. Bijard est en train de pratiquement violer une femme avec Massu. C'est inimaginable. Massu, qui est un type très croyant, doit en être malade de lire ça. » Et ça continue comme ça pendant 3 colonnes. C'est totalement délirant. Alors, on sait bien que le général Bijard est un très 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 vieux monsieur qui a pris l'habitude de parler de lui à la troisième personne. Mais ça donne une impression effrayante de confusion mentale. Et le monde ne fait pas ça. Jamais on ne fait ça. Donc là, il y a une volonté évidente d'induire qu'un homme qui est à l'évidence fatigué intellectuellement, ne se souvient pas de ce qui s'est passé, tient des propos décousus, incohérents, parle de lui à la troisième personne, donc il doit être un peu schizophrène, un peu gâteux, disons le mot, et bon, c'est pas très étonnant qu'il ne se rappelle pas ce qui s'est passé, donc son témoignage, on le donne. Mais il est nul et non avenu, parce qu'à l'évidence, il ne se souvient de rien.
Il y a quand même une grande différence entre Bijard là-dessus et Massu. Bijard, vieux, gâteux, tout ça c'est possible, mais il dit non. Il s'insurge.
Oui, absolument.
Il dit,
ça.
C'est faux, je n'étais pas là, mon régiment n'était pas là, Graziani n'était pas là. Tandis que Massu, ce qui est enfin le plus grave, je reviens à mon premier propos, ce n'est pas que cette dame raconte cela, c'est que Massu, général Massu, il bat sa coulpe, il dit, alors qu'il a dit la même chose, mais d'une façon différente, il y a 30 ans, il a dit oui, dans la guerre civile, qui nous était imposé, il y avait des mesures policières qui étaient obligatoires. C'était des mesures de sécurité pour les civils et pour les militaires. Il l'a dit. Il n'y a que ça à répéter. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est tellement vrai. La bonne femme qui arrive, qui reste 4 mois toute nue, grièvement blessée, et qui est torturée tous les jours. Hélas, nous sommes quelques-uns à avoir vu ce que c'était que la guerre et que la guerre civile. On sait ce que c'est que les tortures. On en a subi. Parce qu'on ne parle jamais, de cette libération à Paris et de l'Institut dentaire à Paris, où les disciples du général de Gaulle ont fait quelques tortures, et on a eu tous des camarades qui ont été atrocement torturés. On sait comment ça s'est passé. Mais ils n'étaient pas nus, ils sont pas restés 4 mois grièvement blessés. C'est pas vrai, ça sent le mensonge tout ça. Ouais. Mais le responsable de cela, c'est quand même le général Massu qui ne crie pas, qui, si vieux qu'il soit, si fatigué qu'il soit, il dit tout ça n'est pas vrai, c'est faux, vous êtes des menteurs. Et tandis que Bijard avec
voilà. C'est bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que Massu, lui, son interview, c'est impeccable. C'est dans un français impeccable. Ça n'a pas un pli, c'est nickel. Mais Bijard, comme Bijard dit, non, c'est pas vrai, ça s'est jamais produit. Il faut donner l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Et alors, on s'y emploie. Et alors, c'est pas, on peut faire aucun reproche à la journaliste parce qu'elle dit, mais enfin, moi j'ai un enregistrement, j'ai publié. Et je vous garantis que vous prenez le meilleur homme du monde, le plus brillant et le plus intelligent, et vous publiez exactement l'intexto d'une intervention ou d'une interview où il passe pour un imbécile.
Il faut toujours peigner.
Mais bien sûr.
Donc c'est très subtil cette histoire.
Il y a 15 ans, 20 ans même, il parlait de lui comme ça.
Oui, oui, il y a longtemps.
Mais Bijard ne permettrait pas, Bijard, etc.
Voilà, Delon aussi fait ça. Et pas gâteux.
Il ne s'est torturé que lui-même.
Alors, puisqu'on parle de l'Algérie, chaque fois qu'on parle de ces questions, il y a la question de l'immigration qui est pendante, si j'ose dire. Et là, on a une affaire qui fait un grand bruit à propos d'immigration clandestine. C'est l'affaire de la tragédie de Douvres. C'est 58 clandestins chinois qui ont été asphyxiés dans un conteneur étanche qui était transporté sur un camion hollandais. Vous voulez dire quelque chose?
Je voudrais dire, c'est une chose qui est connue depuis, la police sait depuis un certain nombre de temps.
C'est Jean-Claude Varane.
Qu'il y a une immigration qui arrive de cette façon. Les conteneurs sont arrangés. Il y a eu un tiers du conteneur qui sert justement au transport des émigrés. C'est une chose qui est connue des forces de police. Donc l'événement qui s'est passé était prévisible.
J'avais fait mon édito sur le quinquennat et je l'ai refait hier pour parler justement de l'affaire de Douvres. Mais enfin, il y a deux questions qu'on ne pose pas. C'est que d'abord, ça remet en question tout le principe de Schengen, puisque ce camion parti des Pays-Bas, s'il avait été contrôlé par la douane belge, avant de s'embarquer à Zeebrugge, il aurait été on se serait aperçu de la nature de la cargaison. Et donc, on aurait pu mettre fin à cette équipée horrible. Et d'autre part, on nous dit, à propos du camp de Sangat, près de Calais, où se retrouvent tous les recalés, si l'on ose dire, qui n'ont pas pu franchir la Manche, on nous dit ils viennent d'Irak, surtout d'Irak, de l'ancienne Yougoslavie, de l'Afghanistan et de la Chine, qui est le pays qui reste le pays le plus pauvre du monde. Mais enfin, à qui la faute? À qui la faute? Qui est responsable pour l'Irak et pour l'ancienne Yougoslavie? Hélas, nous sommes responsables, puisque c'est le nouvel ordre mondial qui a détruit ces pays, des pays qui étaient parfaitement viables. Pour la Chine et l'Afghanistan, c'est le communisme qu'il faut incriminer. Ce ne sont pas les Formosans qu'on trouve dans les camions frigorifiques. Ce ne sont pas les habitants de Hong Kong. Ce sont les Chinois de Chine populaire, c'est-à-dire du pays dont toute notre gauche, dont tous nos humanitaires, à un moment ou à un autre, qu'il s'agisse de M. Broman, de M. Kouchner, de se sont fait les héros et les porte-drapeaux. Alors là, il y a quand même une responsabilité énorme, et l'on sait que les filières d'immigration sont organisées par les mafias alliées aux nomenclatura communistes, et que les filières de travail clandestin sont également liées au gouvernement chinois, notamment, puisque l'on voit le troisième collectif de clandestins chinois qui bénéficie des conseils de l'ambassade. Et on sait qu'ils reçoivent les visites d'attachés d'ambassade chinoise.
En France. Ceux qui défilent à la Bastille.
Ceux qui défilent du troisième collectif qui viennent d'être abrités à l'église Saint-Merry reçoivent régulièrement la visite de diplomates chinois, de Chine populaire. Donc, il y a des liens que tout le monde connaît, dont les gouvernements européens sont parfaitement informés, dont notre ministère, dont le terrible M. Chevènement, est parfaitement informé. Or, la seule chose qu'on tire, la seule conclusion qu'on tire de cette affaire, c'est qu'il faut ouvrir davantage les frontières. Mais enfin, c'est absolument monstrueux. Il ne faut pas, comme les 15 l'ont fait à Feira au Portugal lors du dernier sommet européen de la présidence portugaise, il ne faut pas se pleurer, il faut prendre des mesures, mais des mesures contre les gouvernements exportateurs de toute la misère du monde.
Oui, on ne peut pas espérer qu'on va prendre aujourd'hui des mesures contre la Chine, alors que Chirac faisait danser sa femme avec le visiteur
Jiang
Zemin il y a quelques mois. Donc, et puis que la France continue à manifester son soutien à la Chine, alors que la Chine occupe illégalement le Tibet. D'ailleurs, on voit, comme d'habitude, qu'il y a des pays qui ont le droit d'occuper leurs voisins et d'autres qui n'ont pas le droit. L'Irak n'a pas le droit d'occuper le Koweït parce qu'il se fait casser la gueule. La Serbie n'a pas le droit d'être chez elle au Kosovo parce qu'on les massacre. Mais les Chinois peuvent occuper le Tibet depuis 50 ans sans que personne ne bronche. Et d'autres pays dont on a assez parlé ce soir, sur lesquels je ne reviendrai pas, peuvent aussi occuper les régions circonvoisines sans que ça gêne qui que ce soit. Donc là, on est dans un ordre qui n'a rien à voir avec la morale.
Et puis en France, il y a quand même un grand problème. C'est ce travail noir, ce travail clandestin. On va pas me dire que la police française ne connaît pas ces ateliers. C'est pas vrai. On ne peut pas faire travailler 25 ou 30 personnes 24 heures sur 24 dans un endroit quel qu'il soit sans qu'il y ait des fuites dans le quartier.
Mais
ou bien alors c'est une police nulle. Ouais. Et peut-être que l'on va découvrir aussi que M. Chevènement aura été un ministre de l'Intérieur super nul. C'est pas impossible qu'on arrive à...
Je crois qu'on l'a découvert déjà d'ailleurs.
Peut se produire. Mais c'est même pas la peine d'identifier les ateliers au bruit. Il suffit d'aller se promener dans le sentier par exemple. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on les voit dans la rue.
Ce sont
attendant.
Pas les start-up qui font
c'est pas les start-up
non, qui ce sont
pas...
effectivement les. Voilà. Et c'est ça dont je voulais parler, ce que dit François très bien. Bon, c'est qu'il y a des filières, et comme les Chinois sont déjà organisés parmi les plus organisées du monde, ça va bientôt être la première immigration vers la France. Parce que ce sont des gens qui ont compris les techniques, ils se ressemblent tous, ils se repassent les mêmes passeports. En plus, les gens, ça a été indiqué, les gens qui sont arrivés, les gens qui sont passés, ont payé 150 000 francs, ouais. Donc toute la famille s'endette pendant des années, pour que une personne puisse arriver.
Et vous vous rappelez, Emmanuel, qu'on avait fait une enquête sur cette histoire extraordinaire, la communauté chinoise de France, enfin de Paris en tout cas,
n'a pas de décès.
Est pratiquement immortelle.
Oui.
La communauté chinoise dans le 13e arrondissement ou à Belleville, effectivement, a un taux de décès très largement inférieur à ce qui devrait être, tout simplement, parce qu'en réalité, quand il y a des morts, ils récupèrent les papiers qui donnent à des immigrés clandestins qui deviennent des immigrés réguliers.
Mais qu'est-ce qu'ils font des morts?
C'est ça ce que qui disait...
moi, qui suis habitué des restaurants chinois.
Non, mais... Ce que disait Camille... à propos du sentier ou quand on va à Belleville, il suffit d'aller dans la rue dans ces quartiers-là pour très très facilement, j'y habitais pendant 5 ans, pour voir qu'il y a des quantités d'ateliers clandestins, il y a des magasins clandestins, il y a des salles de jeux clandestines, il y a des bordels clandestins, il y a des tripots, il y a de tout. Bon, et tout est totalement illégal.
Il y a une police clandestine.
Bon, voilà. Oui, celle-là, c'est celle qu'on voit le moins.
D'ailleurs, il y a du racket, etc. Il y a eu quelques morts, il y a 2 ou 3 ans, à Paris. Et ce qui est absolument sidérant, c'est de voir que depuis plusieurs années, théoriquement, les renseignements généraux parisiens et français ont été réorientés, non vers la politique, mais vers la lutte contre le travail clandestin. Et on voit que les ateliers continuent à fonctionner parfaitement et sont les principales fournisseurs.
Je voudrais ajouter une chose là aussi, c'est que le personnel clandestin chinois, il ne sert pas que des patrons chinois. Pour avoir des droits d'installation en France, il sert un patronat français.
Oui, de la
moyenne orientale, si je me suis bien compris.
C'est absolument certain qu'il y a cet aspect de la complicité claire, ouverte des employeurs, parce que il faut quand même, ça c'est vrai que c'est un grand cheval de bataille des gens de gauche qui disent mais le travailleur clandestin, il faut aussi qu'il y ait un employeur clandestin. Mais c'est pas parce que les gens de gauche le disent que c'est pas vrai. La vérité c'est que s'il y a des travailleurs clandestins, parce qu'il y a des gens pour les employer. Marie Camille, non?
D'accord, mais enfin il y a beaucoup de chômeurs aussi parmi ces travailleurs clandestins. Ils ne viennent pas tous pour travailler.
Mais, c'est-à-dire, enfin, je pense qu'en tout cas pour les Chinois, ils peuvent peut-être cumuler les indemnités de chômage avec le travail clandestin en même temps.
Et d'autre part, nous avons commencé à dénoncer cette invasion qui devient absolument terrifiante et qui est partout. On a tous commencé à la dénoncer au début des années 80, sans aucun succès. D'autre part, il y a beaucoup de Chinois viennent aussi en Occident, parce qu'ils peuvent avoir, en Occident, ils peuvent avoir autant d'enfants qu'ils veulent. Ce qui n'est pas le cas en Chine.
Ça, c'est plutôt sympathique.
Oui, le tout est
les
de
gens
savoir...
qui veulent avoir des enfants.
Oui, mais enfin, moi, je trouverais très bien qu'ils les aient. Vous savez, la Chine est terriblement peuplée, mais il y a une énorme partie de la Chine qui n'est pas peuplée. Alors, les Chinois, je souhaiterais qu'ils fassent tous les enfants qu'ils veulent, mais qu'ils les fassent chez eux, dans les États, dans les provinces chinoises, qui sont absolument désertiques. Ils peuvent aller les mettre. Il y a beaucoup des territoires énormes. Je suis allée en Chine il y a 2 ans, on traverse des espaces où il n'y a notamment, quand on va vers l'est, les provinces vers le Tibet, il y a beaucoup de choses à faire.
Moi, je vous dirais que c'est une impression. C'est une impression, c'est un sentiment, donc ce n'est pas une information ni une position. J'ai l'impression que l'immigration asiatique en France n'a pas le même caractère que l'immigration africaine.
Elle l'aura.
C'est pas une immigration de peuplement, c'est une immigration de passage. C'est des gens qui viennent pour travailler et qui ont envie de retourner chez eux. J'ai l'impression. Mais bon, après tout, je suis ni Madame Soleil ni Alfred Sauvy.
Quand on voit le Canada et l'Australie. Eh bien, c'est une immigration qui est de peuplement.
Ah, ouais.
Et je crains que ça ne soit une immigration de peuplement ici aussi.
Mais il y a une chose, c'est que le jaune, le chinois, ou le japonais, on ne sait pas bien nous faire la différence, il y en a, ne fait pas peur. Il n'y a pas une crainte sexuelle pour les femmes, par exemple.
Alors que
sur les noirs.
Il n'y a pas d'angoisse.
Il n'y a pas ça. Il est en général courtois. Il est poli. Mais il est terriblement envahissant. Et comme tu disais tout à l'heure, ce sont des gens organisés, ce sont des gens qui sont des fourmis, ils savent bien faire leurs choses.
Comme dirait Edith Cresson.
Ah oui, c'est assez. Et on voit qu'ils sont en train de prendre les quartiers, les arrondissements, les uns après les autres.
C'est un quadrillage.
D'une façon méthodique. Ils achètent, ils ne menacent pas, ils achètent aux Arabes, ils achètent ceci, ça, mais ils avancent, ouais.
Mais vous n'avez qu'à regarder le quartier de Beaubourg actuellement. Il y a 10 ans, il y avait des marchands divers. Aujourd'hui, dans le quartier de Beaubourg, un magasin sur deux est un magasin chinois spécialisé dans les sacs, le cuir, les petits bijoux, les chaussures, maintenant une partie des vêtements qu'ils ont repris au sentier, ce genre de choses. Et maintenant, c'est pratiquement un magasin sur deux qui est vendu à des Chinois. Il y a des rues complètes où il n'y a plus que ça. Bon, or, à Beaubourg, il y a 10 ans, il n'y en avait aucun.
Alors, Emmanuel, c'est plus grave. Ce ne sont même pas des magasins, ce sont des dépôts et des entrepôts. Ce qui accentue le vide de certains quartiers de Paris.
C'est vrai, au point de vue de l'habitation, c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont complètement vides.
Et de la fréquentation même, ça devient des quartiers d'entrepôt.
Ce que je voudrais vous proposer maintenant, j'ai au téléphone, vous savez que je fais intervenir régulièrement Alexandre Chabanis au téléphone, parce qu'il a lancé ce projet d'états généraux sur l'immigration et l'intégration. Et en vue d'un référendum. Alors, je lui ai demandé d'intervenir pendant quelques minutes. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Je crois qu'on est au cœur du sujet. Alexandre Chabanis, vous m'entendez ?
Oui, bonsoir Serge. Je salue la presse du centre qui est avec vous, puisque la Constitution française nous précise que le peuple français et la nation française sont au cœur de du système juridique français. Et donc, je salue des représentants de la presse française du centre, car c'est vrai que ces hommes et ces femmes, qui ne sont ni le peuple de gauche, ni le peuple de droite, sont des représentants du peuple français.
Je ne sais pas si vous leur faites plaisir, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est celui de ces états généraux. Alors, où en êtes-vous de votre projet ?
Alors, ça prend une dimension assez extraordinaire, puisque les gens comprennent, quand ils l'ont, le mode d'emploi, ou demandent des explications sur le mode d'emploi qui est fourni avec le tract et les documents d'ensemble que nous donnons aux personnes qui viennent nous demander des explications. Nous sommes passés, nous sommes toujours dans la période de sensibilisation, c'est-à-dire que la question, il y a trois périodes dans que nous mettons en place. Une période de sensibilisation où nous demandons aux gens hors parti et hors association de se mettre en mouvement eux-mêmes, parce qu'il y a une grande utopie de croire que l'on peut continuer à faire se mouvoir les gens sans qu'ils aient autorité sur la chose. Donc je n'ai pas créé une association ou un parti, mais je crée un mouvement et je dis que la période de sensibilisation, c'est aux gens de créer l'idée, de faire se mouvoir l'idée et surtout de se mettre en mouvement par rapport à la presse et d'imposer à la presse, d'imposer aux hommes politiques le référendum. Donc c'est la première partie. Nous sommes en plein cœur de la première partie, puisque de partout, de Marseille, de Nice, de Corse, de Provence, de Bretagne, j'ai fait à peu près 2500 envois jusqu'à ce jour. Donc je ne suis pas seul, et donc ça se poursuit. Cette période de sensibilisation terminée, nous passons une période de structuration de l'idée, c'est-à-dire nous créerons des comités départementaux, régionaux et un comité national qui, lui, sera emmené à préparer définitivement à partir du mois de septembre ou mieux septembre les états généraux et à présenter à l'ensemble de la population française ce que nous allons décider du contenu et du contenant des états généraux, qui est d'ailleurs bien avancé au niveau des idées. Alors, il y a une volonté de que les gens se mettent en mouvement et non pas d'attendre l'ordre du chef et d'attendre l'ordre, quel que soit le chef d'ailleurs, mais quelle que soit sa qualité, et de dire aux gens, vous voulez gagner votre liberté, eh bien vous allez la prendre tout seul, mais comme vous êtes des milliers et des millions à penser la même chose en même temps et au même moment, vous allez gagner ce combat politique, et ce combat politique se terminera par ces états généraux, d'autant plus que le quinquennat nous offre, sur le plan psychopédagogique, une action extraordinaire, puisque la grande peur maintenant du système politique qui ne veut pas que le peuple s'exprime, c'est de dire on va aller à l'échec sur le référendum sur le quinquennat, et l'opération les états généraux du peuple français, que demande à 80% le peuple français. Il faut bien se rendre compte que 80% du peuple français demande un référendum sur l'immigration et l'intégration. Nous disons bien 80%, ça c'est les chiffres réels. Bien, ce peuple va savoir que le quinquennat, il se fout du quinquennat, du référendum sur le quinquennat, c'est pour ça que la classe politique fait marche arrière. Et donc maintenant, nous sommes au cœur même du système politique. Et nous disons qu'il faut continuer à se mobiliser sur cette idée unique, ce mode de fonctionnement unique qui va emmener les Français à s'unir, non pas autour d'un parti ou d'un homme, mais sur une volonté politique qui est de définir le schéma d'intégration. Et vous en avez parlé au début de votre émission, nous ne voulons pas mettre les gens, quelle que soit leur race, dans des camions frigorifiques. Nous voulons que les États soient responsables de leurs ressortissants, et nous ne voulons pas payer par des kilos et des kilos de papier dans la presse, savoir s'ils ont été malheureux ou pas. Les États sont responsables de leurs ressortissants, et ce n'est pas à l'Occident de payer le prix. Alors, de cette immigration.
Alexandre Javadi, je vous demande un instant. Il y avait des réactions de mes confrères qui sont autour de cette table et je voudrais leur demander de les exprimer. Jean-Claude Varane, vous aviez l'air d'être réservé sur le pourcentage des Français qui demandent un référendum sur l'immigration.
Bien, je crois que les Français se foutent éperdument de ce référendum, de ce quinquennat.
Moi, ça, oui, c'est sûr.
Je crois qu'une chose, moi, qui a été démontrée, je crois que c'est en 1853, il y a un homme qui a été nommé par Napoléon III, qui est Monsieur Haussmann, et qui a été préfet de Paris pendant 17 ans. Eh bien, il a fait du bon travail parce qu'il est resté longtemps. Et que quelqu'un qui sera au pouvoir pendant 5 ans, au bout de 3 ans, il ne pensera qu'à une chose, c'est à se faire réélire. Et je crois, pour répondre vraiment à la véritable question, que les Français se foutent.
Non, mais on est tout à fait d'accord. C'est ce que disait Chabanis. Il dit les Français se contrefichent du référendum sur le quinquennat. D'ailleurs, quinquennat ou septennat avec Chirac, ça sera toujours un déconnat. Il faut quand même pas perdre cette vue. En revanche, ils sont très nombreux à espérer un référendum, à attendre un référendum sur l'immigration. Alors, vous y croyez, vous n'y croyez pas? Quelle est votre opinion là-dessus?
Je crois que le pourcentage de 80% me paraît un peu optimiste. Il y a énormément de blocages et il y a quand même, quand on voit le décompte des sondages, la tranche des 15 à 24 ans par exemple est quand même très favorable à une France plurielle. Et puis, il y a les néo-français, qu'il ne faut pas oublier dans les sondages, ni dans les chiffres électoraux.
Oui, Alexandre Chavin, je vais vous redonner la parole. Attendez, je voudrais... Emmanuel Ratti, vous avez quelque...
Sur le plan pratique, c'est bien beau de parler de référendum, mais il doit être mis en place par qui?
Alors voilà, on va y venir, je crois.
Par le député?
Emmanuel, rien pas de réflexion. Non. François Brignon, non. Alors, Alexandre Chabanis.
Oui, alors, je suis très étonné que des représentants de la presse nationale reprennent l'argumentation du Parti communiste dans ses tracts sur le vote des étrangers, qui est un sondage complètement falsifié, qui a été publié d'ailleurs par les représentants des jeunesses communistes, en disant 60% des Français, c'est-à-dire c'est un sondage qui a été demandé en fait par le Parti communiste, c'est-à-dire 60% des Français sont pour le vote des étrangers. Ce constat négatif ne peut pas faire partie de notre analyse politique.
Non, c'est pas du tout. Alors, ce attendez, qui a été
non,
dit,
non, non, je réponds sur le sondage. Ce sondage est complètement faux, donc on n'appuie pas le raisonnement de gens qui se recommandent de l'idée de nation ou de notre pays qui s'appelle la France et de notre peuple, ne peuvent pas se recommander du sondage pour emmener une vision positive de l'action. Deuxième point. On ne part pas d'un constat négatif. Quand on fait une analyse sur l'action que j'entreprends, on ne peut pas partir d'un constat négatif fait en 1800 et quelques pour
non, mais attendez, vous mélangez tout là.
Non, mais moi, je ne mélange pas les sondages.
Ça n'a rien à voir. L'histoire de la durée du quinquennat, c'est hors sujet.
Mais oui, c'est hors sujet, bien entendu.
Voilà, alors, parlons.
Tombe à point pour démontrer, il faut bien comprendre, puisqu'on fait, les journalistes sont quand même des gens qui font de la psychologie au moins élémentaire, que ce quinquennat va être
pas
un échec
élémentaire,
et élémentaire. Oui, mon cher Watson, et que ce quinquennat, le référendum voulu par Chirac et la cohabitation va être un échec, et que nous apportons au peuple français une réponse précise aux problèmes qu'il se pose.
Alors, Claude Giraud posait la question, de quelle manière pensez-vous parvenir à imposer un référendum?
Voilà. Alors, de quelle manière? Vous savez, alors, il faudrait que quand même, que nous rentions dans... Alors, il faut quand même être précis, alors, si vous me laissez quand même expliquer. C'est-à-dire qu'il y a trois possibilités pour réunir les conditions d'un référendum. La première, c'est que le président de la République le demande. La deuxième, c'est que le Parlement le demande. Mais la troisième, elle nous est imposée, et elle est imposée au peuple français et à notre citoyenneté française par le vote des étrangers. Et ça, nous avons la liberté juridique de convoquer nous-mêmes et d'appeler par les États généraux à un référendum, et donc même à, et je l'ai dit hier dans une assemblée de parlementaires, nous sommes nous-mêmes, citoyens français, dès l'instant où on nous remet en cause par le vote d'étrangers notre citoyenneté, nous pouvons remettre
vous
en cause...
Vous voulez dire, dès l'instant où on propose de faire voter les étrangers, nous sommes fondés à faire valoir ce qu'on appelle le droit de pétition, c'est-à-dire à réclamer une consultation du peuple français,
voilà,
sur ces questions.
D'accord. Vous avez tout compris, frère.
Voilà.
Alors, ça, il faudrait qu'à ce moment-là, les gens, les journalistes, se posent quand même la question de savoir... Quel est, au lieu de dire, c'est exactement, pour le quinquennat, c'est exactement, on n'est pas pour ou contre le quinquennat, on s'en fout. Mais c'est pas la peine de dépenser des tonnes de papiers, des tonnes d'argumentations juridiques ou pas, sur la validité du quinquennat ou sur la validité du vote des étrangers, si nous n'avons pas un projet constructif à opposer à ceci.
D'accord, mais donc votre réponse à la question de Claude Giraud, c'est faire activer le droit de pétition.
Le droit de pétition qui doit emmener... comme les cahiers de doléances sont faits en 1789, okay, qui doit amener le peuple français à se réunir sur les cahiers de doléances qui seront les questions référendaires. Les cahiers de doléances, comment ça se traduit 200 ans après? Il faut quand même rester dans le fil de l'histoire. Si nous restons dans le fil de l'histoire et du fait juridique de l'histoire du peuple français, les cahiers de doléances ont emmené cette révolution, et mais moi je dis, les cahiers de doléances du peuple français aujourd'hui, est-ce que vous les avez les uns ou les autres? Moi je dis que les comités qui vont se mettre en place vont les avoir. Le jour de la réunion des États généraux, des milliers de cahiers de doléances seront présentés, et ces milliers de cahiers de doléances emmèneront les questions référendaires, non pas que nous demanderons à M. Chirac ou aux parlementaires, que nous imposerons aux parlementaires, parce
okay
que notre démarche n'est pas celle
bon
d'un parti.
Non.
D'un parti, ni d'un groupe structuré, elle est celle de chaque citoyen français, dont les journalistes en sont, je pense, qui vont demander à reprendre leur droit positif, ce qu'on appelle le vrai droit positif et pas celui qu'on vit à l'heure actuelle, qui vont reprendre leur citoyenneté à ceux à qui on l'a délégué, parce que n'oubliez pas que nous avons délégué, selon la Constitution, notre souveraineté.
Okay,
et on
ne
leur a jamais
c'est
donné
clair
notre souveraineté.
Bon, j'ai compris, ça fait déjà un certain temps que j'ai compris ça, et donc je vous redemande là de donner l'adresse à laquelle on peut vous écrire pour, si on veut participer à votre action et avoir plus d'informations et de la documentation. C'est donc à Bessancourt.
Alors, au 34
Grande Rue.
Bessancourt, 34 Grande Rue Bessancourt, 95 550, fax téléphone 01 30 40 03 71. Et je tiens à préciser, nous allons avoir un local prochainement, donc nous sommes en voie d'avoir un local, mais qu'il faut bien comprendre, je vais engager une tournée dans toute la France pour mettre en place les comités qui vont emmener ces états généraux. Donc je vais regrouper les gens après la sensibilisation, je vais regrouper les gens qui ne se connaissent pas pour l'instant et qui sont déjà plusieurs milliers, je vais les regrouper et ils vont créer des comités départementaux, nationaux et régionaux et départementaux. Il nous faut quand même quelques moyens. Et je demande aux gens de se rendre compte, si nous voulons gagner cette action, si nous voulons pour une fois gagner un combat politique, hein, sans être divisé, eh bien, il faut que les gens, quand même, mettent un peu la main au porte-monnaie. Puisque je vais faire la tournée de France pour emmener, pour mettre en place les comités départementaux, régionaux et le comité national.
Entendu. Merci voilà. Alexandre Chabanis.
De rien. Et bonsoir.
Bonsoir. Alors c'est donc 34 Grande Rue à Bessancourt, 95 550, téléphone 01 30 40 03 71. Moi je vous trouve tous très réservés, plus que réservés, sceptiques, même un peu hostiles. Je partage pas du tout vos réserves.
Moi,
je
vois pas du tout, du tout.
Je vois pas pourquoi les Français, une fois au moins, pourraient pas prendre quelque chose en main et dire aux hommes politiques, écoutez, vous nous emmerdez, vous êtes une mafia qui fait ce qu'elle veut depuis des années, ça suffit. Maintenant, on reprend les rênes et nous-mêmes, on va décider de notre avenir. Pas par des parlementaires qui sont corrompus, qui sont des paresseux, des prébendiers.
C'est la guerre civile qui est en jeu.
La guerre civile, la guerre du peuple français contre une poignée de voyous. Enfin, ils sont quelques centaines d'inorepresentants.
Parce que M. Chabanis disait qu'il fallait imposer cette demande de référendum.
Il faut l'imposer, bien sûr.
On l'impose comment? Avec la mitraillette
ou à la hanche? Non, il y a la Constitution.
J'en vois pas beaucoup de moyens légaux.
Mais la Constitution le prévoit. La Constitution prévoit le droit de pétition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui exigent quelque chose, on doit tenir compte de leurs exigences. Autrement, il y a des moyens de rétorsion. Il y a des formes de grève qui existent et qui sont des...
Mais je crois quoi. Mais non, moi, je trouve extrêmement... Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que je suis très sceptique sur les mouvements populaires qui porteraient ces actions.
Bon, j'aurais trois ou quatre points à dire. Bon, la première chose, c'est que le droit de vote est actuellement accordé aux étrangers européens séjournant en France. Oui. Donc je considère que c'est déjà un peu tard de commencer à s'intéresser au sujet maintenant, alors qu'il aurait déjà fallu s'intéresser avant. Alors par exemple, est-ce qu'on le supprimera pour les étrangers européens? Est-ce qu'on continuera à l'accorder? Il y a toute une série de choses.
Là, c'est un autre problème. Attendez, on peut déjà répondre à ça. C'est un problème de réciprocité. Dans l'occurrence, la réciprocité est parfaitement respectée, puisque si les Allemands vivant en France votent en France, au municipal, les Français vivant en Allemagne vote au municipal en Allemagne. Mais le problème, c'est le problème de l'immigration extra-européenne, immigration africaine, immigration chinoise, enfin asiatique, ou immigration, ce que vous voudrez.
Européenne, il n'est pas aussi, européenne aussi.
Et même des pays européens où il n'y a pas de réciprocité.
Il y a plusieurs pays européens où il n'y a pas la réciprocité.
Eh bien, à ce moment-là, il faudra supprimer.
Ne peut pas y avoir de... Ça ne peut pas marcher comme ça, parce que les gens ont plus envie de venir en France qu'on a d'aller en Bulgarie ou en Pologne.
Mais c'est comme ça. C'est un aspect.
Ah ben oui, mais
c'est vrai.
Mais c'est une chose.
Ils ont beaucoup plus envie de construire des mosquées en France que nous de construire une église à La Mecque.
La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pendant à peu près 15 ans, dans le monde, les Français les Français qui voulaient exprimer leur opposition globalement à l'immigration avaient un parti constitué pour le faire. Bon, on a vu ce que ça a donné, c'est monté aux alentours de 15%, ça n'a pas dépassé ça. Et les problèmes se posaient déjà à l'époque, je me souvenais des affiches du Front National, c'était 1 million d'immigrés, c'est 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop. Ouais. Donc ça fait, le Front National a été créé en 1972, il y a eu pendant 15 ans au minimum et encore actuellement des gens qui peuvent parfaitement exprimer dans un cadre législatif ou enfin dans un cadre de votation simple leur opposition à l'immigration. Bon ben pour le moment il y a 15% des Français qui ont compris.
Non Emmanuel, c'est pas vrai, parce que il y a beaucoup de Français qui sont parfaitement hostiles à l'immigration telle qu'elle se produit aujourd'hui et qui ne votent, et voilà 59%, et qui ne voteraient jamais pour le Front National. Pour 1000 raisons. C'est clair. Donc ces gens-là, d'ailleurs, il ne s'agit pas de voter, il s'agit de leur dire exprimez votre opinion. Oui. Et il ne s'agit pas d'une élection, il s'agit d'un référendum. C'est pas du tout la même chose.
Oui, mais l'opposition a déjà fait le RPR, l'UDF, ils ont fait des états généraux d'immigration. Quand ils étaient dans l'opposition, ils ont fait des discours qui étaient très forts, qui n'ont pas appliqué quand ils étaient au pouvoir.
D'abord, c'est pas un passé brillant, les états généraux.
Ah non, mais on est d'accord.
Les cahiers de doléances, non plus.
Sur l'appellation... l'appellation État généraux et cahiers de doléances, j'ai toutes les réserves. Mais bon, me fait penser aux gens qui avaient adhéré au mouvement national et qui ont foutu le camp le jour où Maigret a appelé ça le mouvement national républicain. Franchement...
Il n'y en a pas eu beaucoup.
Serge, je vous dirais que moi, il y a une chose rédhibitoire qui me coupe l'appétit dans les actions de M. Chabanis que vous approuvez. Et c'est tout à fait votre droit, elles ont des aspects honorables, c'est d'appeler son mouvement le FLN. Alors ça ne passe pas, et ça m'étonnerait que ça passe.
Un Front de Libération Nationale.
Oui, mais c'est FLN quand même.
C'est un clin d'œil, moi.
Alors,
je dirais que
FLN, c'est une chose qui vous coupe l'appétit d'emblée. Extrêmement maladroit et inutilement provocateur.
Bon, ben, comme ça, au moins, on a vos opinions.
Ça ne me choque pas tellement, mais
tu
c'est le côté
pratique. Tu sais très bien que quand
pratique,
tu parles des collabos, moi, je fais toujours un bond en arrière. Alors.
Ben oui, mais quand je commence mon émission en disant « Amis de la Résistance », on sait très bien de qui je veux parler.
Non, et puis je pense que pour réussir une affaire comme ça, il faut de grands moyens.
Et d'énormes relais médiatiques.
Il faut avoir les partis avec soi, les mouvements
bon,
avec
ça. Veut dire quoi,
on
ça
ne peut pas partir. C'est pas un homme seul qui va faire ça. Ben, c'est ce que je pense. Je lui souhaite de réussir.
C'est quand même pas moi qui vais dire ici qu'un jour, il y a un homme seul qui a quand même parlé dans un micro et puis ça a donné des résultats. Enfin, moi, je crois qu'un homme seul peut faire des choses, il peut arriver à faire bouger le monde.
Oui, oui, c'est vrai.
Je suis étonné. Non, parce que si on n'essaye même pas ça...
Les temps ont changé,
d'accord. Mais si on n'essaye pas ça, qu'est-ce qu'on va faire?
Des circonstances comparables, hein, avec celle du 18 juin.
Je reconnais qu'il faut faire quelque chose, mais toutes les initiatives sont bonnes, et moi, je souhaite du succès à toutes les initiatives qui vont dans le bon sens.
Et quelles sont les autres?
C'est Renaissance 95. Il y a beaucoup
attendez,
de
Attendez, Renaissance
mouvements.
95, ils organisent des manifestations de 53 personnes.
Eh bien, c'est
ça
le
ne sert à rien.
C'est le drame,
c'est un...
Serge.
Non, je ne suis pas
non,
d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord, dire. Serge. Attends. Parce qu'ils ont commencé, en effet, avec une manifestation.
Ils ont commencé avec 300, ils ont fini avec 250.
Et lui, combien il a eu, ce monsieur?
Pour l'instant, je ne sais pas, mais au moins,
lui,
là, il y a quelque
chose. Contre les manifestations. C'est justement que c'est idiot.
Et
ringard.
On a vu le résultat. Renaissance 95, on a vu le résultat. On l'a vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première fois qu'ils ont fait une manifestation, ils ont fait une manif en disant on ne veut pas de politique. On ne veut pas les gens du Front National, on ne veut pas les gens du MNR, etc. Ils avaient De Villiers. Bon. Mais le Front National et le MNR, ils n'en voulaient pas. Le résultat, il n'y avait personne. Enfin, il y avait très peu de monde. Et il y avait de moins en moins de monde parce qu'il n'y a pas de volonté. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Réunissez-vous pour dire que vous êtes contre l'immigration. Bon, ben, ils le font. Puis une fois qu'ils ont poussé leur coup de gueule, ils rentrent chez eux et c'est fini. Et la fois d'après, ils ne reviennent pas. Là, il y a quelque chose. Au moins, on dit aux gens, vous allez avoir la possibilité de vous mobiliser, de vous exprimer et de demander quelque chose. Je crois qu'au moins, ça mérite qu'on essaye de faire quelque chose et de soutenir cette initiative. C'est quand vous dites qu'il faut des moyens, il faut un soutien médiatique. C'est la vérité. Si les moyens, on les aura jamais. On n'aura jamais les moyens de l'ennemi. On n'aura jamais le soutien médiatique de l'ennemi. Mais si entre nous, on n'a pas un petit peu de, on se mobilise pas un peu pour soutenir des initiatives de ce genre, je trouve que c'est vraiment une façon de dire, bah, y a plus rien à faire, quoi. Y a plus qu'à tirer l'échelle et puis attendre de crever tranquillement.
Mais non, Serge, je suis pas d'accord du tout parce que chacun dans nos journaux, notre dernière idée est de tirer l'échelle. On tire pas l'échelle du tout. On combat comme on peut combattre chacun avec ses moyens, son talent, tout ce qu'on peut faire. Mais de là, si vous voulez, à approuver certaines initiatives dont, malheureusement, Camille disait tout, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'elles sont sympathiques, les buts sont parfaitement estimables. Mais dont on sait qu'elles vont être vouées à l'échec, une bonne, un peu d'estime, et puis voilà. Alors, on va chaque fois mobiliser nos lecteurs dans nos journaux, dans nos colonnes.
Non, non,
pour
il ne s'agit pas de les mobiliser.
Actions.
Attendez, il ne s'agit pas de les mobiliser.
Il faut bien prévenir de ce qui
va se
passer.
Non, moi, je crois qu'il s'agit pas. On c'est pas une mobilisation, c'est une information. On dit aux gens, voilà ce qui se passe. Renseignez-vous. Après, vous êtes grand, vous êtes des adultes, vous avez un esprit de discernement, vous l'appliquez. Si, ayant étudié la chose, vous considérez que c'est pas ce qu'il faut faire et que vous ne participez pas, eh bien, vous le faites pas. On vous demande pas en tant que... D'abord, on n'est pas des journaux d'organisation de mouvement. Moi, je prétends pas envoyer les gens ici ou là. Je dis simplement, ça existe. Il faut soutenir cette initiative parce qu'au moins, il y a un mouvement, il y a quelque chose. C'est en train de... Il y a quelqu'un qui a dit, moi, je vais essayer de faire bouger ce pays qui ne bouge pas. Notre pays est mort en ce moment. Il ne se passe rien. Personne ne fait rien parce que tout le monde dit en permanence, de toute façon, c'est foutu. On n'a pas la presse, on n'a pas d'argent. Il y a une dame qui a écrit à Le Pen pour lui dire, voilà, cette initiative, pourquoi vous la soutenez pas? Pourquoi le Front National ne s'associe-t-il pas à cette initiative? Il a répondu, parce qu'il faut des moyens et de l'argent. Il faut de l'argent et du monde. Mais le Front National, il a de l'argent et du monde. Les partis, ils ont de l'argent, aussi peu que ce soit. Ils ont des militants. Pourquoi ils n'engagent pas leurs militants dans cette affaire? Moi, je ne comprends pas cette attitude qui consiste à dire, bah, ça ne marchera pas, donc on ne fait rien. Évidemment, si on ne fait rien, ça ne marchera jamais. Ça, c'est absolument certain.
Est-ce que je peux vous donner le point de vue de Candide?
Oui, je ne sais pas si c'est très candide, le point de vue de Candide.
Mais si, moi, il y a plusieurs semaines, il y a même beaucoup de ce domaine, où j'écoute M. Chabanis. Je n'ai pas encore réussi à comprendre exactement ce qu'il voulait faire et par quel bout il voulait commencer.
Je crois que ce soir, c'est lumineux. Il a expliqué d'une façon très claire. Il lance une initiative.
Désolé, Serge, nous, on n'a rien compris. Ouais.
Voilà. Et même moi, j'ai compris.
Alors. Nous, on n'a rien compris. On ne sait pas. Je ne vois pas. Écoutez, je vois.
Je crois qu'il faudra
Camille Galli qui rigole.
Non, je ris pour autre chose.
Et Monsieur Rassier qui fait des yeux ronds. Et François Brignon qui rit. Je suis désolée, on n'a pas compris.
Moi, je reste entièrement sur ma position, et vous, apparemment, sur les vôtres. Et ça prouve bien, d'ailleurs, qu'on n'est pas une bande de béni oui oui.
Mais exactement, exactement.
Alors, on va, tiens, à propos de béni oui oui, ou de pas de bande de béni oui oui, on va donner la parole aux autres. Qu'est-ce qui se passe, mon petit France? Il y a un problème parce qu'on ne s'est pas identifié.
On se demandait si vous faisiez une heure et demie ou trois heures aujourd'hui.
Non, on fait trois heures. Qui non? Si,
bien sûr.
Bon, alors. Nous avons quelques petits problèmes.
Tenez-nous quand même au courant.
Alors, donc, les messages des auditeurs.
Ben, sur le début. Excusez-moi. Sur le début de l'émission, on a parlé de. Contrairement à ce que vient de dire François Brignon, plusieurs députés, dont Philippe de Villiers, ont refusé d'assister au discours de M. Bouteflika devant l'Assemblée nationale.
Et ma mère. C'est exact.
Alors, ils ont bien refusé, mais ils ne sont pas sortis de la salle, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas fait une manifestation publique. Ils ont refusé. Il y a eu lui,
il y a eu aussi M. Daubert, il a écrit, mais il a dit qu'il n'avait pas voulu assister. Il y a, à ma connaissance, je peux me tromper, à ma connaissance, personne ne s'est levé pendant le discours de Bouteflika et a quitté solennellement l'Assemblée. Personne.
Non, sauf les trois, ils ne sont pas entrés. Le troisième, c'est Goasguen.
Ils n'ont pas manifesté.
Non, mais maintenant que c'est un problème.
Ils ont écrit après le lendemain. Il y a eu un papier de Daubert là dans le Monde. Pourquoi je n'ai pas assisté? C'est donc qu'il n'a pas quitté.
Pourquoi aucune organisation nationale ou pied noir n'a déposé plainte contre M. Bouteflika lors de sa visite en France, comme d'autres l'ont fait avec succès contre Pinochet?
Parce que, là je vais donner une réponse tout de suite, parce que justement, il y a des associations en France qui servent à ça, qui servent à bloquer les initiatives de ce genre pour être en quelque sorte politiquement correct ou politiquement correct, c'est ça. Alors, on gueule contre la présence de Bouteflika, on dit c'est inadmissible, il ne devrait pas y avoir Bouteflika et tout. Mais quand on a dit aux gens qui ont ces associations qu'ils pouvaient faire quelque chose, qu'il fallait se mobiliser pour faire qu'au moins un juge d'instruction soit saisi d'une plainte contre M. Bouteflika, qui est complice de crimes qui ont été commis contre des citoyens français protégés par la Convention de Genève et surtout protégés par les accords d'Évian. Je pense aux tueries d'Oran, par exemple. Eh bien, ces associations ont refusé de porter plainte en disant, mais non, et voilà, toujours la même chose, ça sert à rien, ça coûte trop cher. Et M. Attab Pacha, par exemple, qui a été contacté pour ça, a fait savoir que non, l'association ne porterait pas plainte. Bon, alors, chacun prend ses responsabilités dans ce cas. Moi, j'accepte parfaitement que les gens disent, eh ben non, on le fait pas. Mais ensuite, il faut pas prétendre qu'on va mobiliser, parce qu'on peut pas mobiliser des citoyens pour gueuler, en disant dehors Bouteflika, dehors Bouteflika, on se réunit à 200 sur une place de Paris, et puis Bouteflika, il vient, vous fait un bras d'honneur, il rentre chez lui avec 400 milliards dans la poche, ou 400 millions. Ça sert à rien.
Serge, je voudrais rappeler que l'association Veritas, qui s'était portée partie civile contre le général Katz pour l'affaire du les massacres du 5 juillet 1962, a été déboutée de sa plainte par le juge Valla, le juge de Valla étant le même juge qui, au contraire, avait jugé licite les poursuites contre Paul Touvier. Et pour expliquer le rejet de la plainte, le juge Valla a argué de l'ancienneté des faits sur lesquels on ne pouvait plus se prononcer.
Non, mais c'est exactement comme ce qui s'est passé.
Mais enfin, moi je veux bien, mais
avec l'affaire Boudarel. Bon, il y a eu quand même un ancien secrétaire d'État qui était extrêmement courageux, qui était Beauclerc. Bon, et puis on les a renvoyés dans leur but parce que ça convenait pas au pouvoir en place. Hein. Donc on peut considérer.
Oui, mais là, au moins, il y a eu quelque chose de fait.
Il faut savoir quand même que le syndicat de la magistrature détient maintenant les rênes de la chancellerie, que les juges, les procureurs, les vice-présidents, les présidents de TGI, il y en a quand même un tiers qui sont au syndicat de la magistrature, que le noyautage s'effectue depuis très nombreuses années, qui sont des positions. Donc, on a plus de chances à trouver un juge garçonne espagnol pour emprisonner Pinochet. Mais je pense que si Fidel Castro vient demain, ou je pense que personne non plus, aucune des communautés vietnamiennes n'a porté plainte contre
le Cafieux.
Mais il y a eu des plaintes contre Fidel Castro, déposées par une fille d'un général exécuté par Fidel Castro. Elle a été déboutée de sa plainte.
D'autres questions?
En toute discrétion.
Alors, c'est des commentaires à propos de l'immigration. Hier, à l'émission C'est quoi la France, sur la 5e, une jeune africaine de 18 ans a dit « Je suis malienne avant tout. Ce que j'aime en France, ce sont les allocations. Ce serait bien s'il n'y avait pas les Français. Ce qui m'étonne, c'est qu'on diffuse ce genre de propos. Dans quel but ?»
Enfin, ça n'a rien de surprenant, puisque maintenant,
il y a des publicités.
On est rentré dans le multiculturalisme, et il y a des publicités ethniques. Il y a une nouvelle publicité pour le téléphone, qui est une marque de téléphone qui a décidé de séduire l'immigration, où vous avez d'un côté les affiches, on les avait dans toute la France, vous avez d'un côté un pied dans une babouche et l'autre dans une basket. Bon. Et on vous dit, pour vous qui avez les pieds, un pied de chaque côté de la Méditerranée, formidable pour téléphoner. Bon, ils ont imprimé 350 000 tickets derrière de tickets de métro, ils ne l'ont même pas fait à Paris, c'est les tickets marseillais. Bon, et la plupart des panneaux qui ont été choisis se trouvent aux alentours de stades. C'est de la publicité ethnique parfaite. Donc ce que dit madame, c'est pas du tout étonnant qu'on passe ça, parce que ça paraît maintenant tout à fait normal. Il y a même énormément de gens qui seraient choqués si on pouvait supprimer les allocations aux étrangers, puisque la mairie de Paris a été condamnée pour ça, etc. On est rentré dans une autre logique maintenant.
Alors, c'est inamical ce que Serge Le Becquet vient de dire. Nous n'étions pas 53 à la manif, festation, mais 4000, et nous défendons les Français victimes des confrontations avec les immigrés.
Bon, d'accord, 4000, ok. J'ai dit 53, je retire 4000. L'histoire de chiffres, j'ai toujours des problèmes. Moi, j'ai toujours tendance à sous-évaluer, je ne sais pas pourquoi.
Que pensez-vous de l'immigration, et que faites-vous, sinon démolir les rares initiatives telles que celle de Chabanis?
C'est Chabanis qui envoie un message.
Oui.
Mais non, on démolit. Chacun donne son opinion. C'est pas démolir.
Je pense qu'il suffit de lire nos journaux pour voir qu'on fait quand même un travail assez efficace dans ce domaine.
Non, mais ça, c'est parfaitement clair. C'est pas ça qui est en question. Nous, on fait un travail d'information, de mobilisation des esprits. Mais on ne peut pas non plus faire... Enfin, ce n'est pas notre mission, ce n'est pas notre travail de faire de la mobilisation des personnes dans la rue. Quoi.
C'est voilà. Juste. Voilà. Militant de gauche, je m'étonne qu'on prenne prétexte de la difficulté d'organisation pour refuser une action politique. Exemple, il a suffi de peu de monde pour faire reculer l'OMC. Un militant
signe. Mais c'est, on en revient au relais médiatique.
C'est grave.
Exactement, j'y pensais. On en aura de moins en moins avec l'intrusion de Sigram à Canal+ et de Bronfman.
Alors, ça revient sur ce qu'on a dit avant. Moi, je suis d'accord avec Madame Gallic, car étant de la communauté juive, nous trouvons que Heidenberg et compagnie ne nous représentent pas, et c'est pour cela que nous allons vers les partis de la droite nationale.
Bravo.
J'habite le quartier Voltaire et tout est pris par des magasins chinois. On en souffre beaucoup dans le quartier. Les magasins chinois ne travaillent pas tellement, mais servent de couverture à d'autres activités moins avouables, il faut le dire. Êtes-vous certain que l'auditorat de Radio Courtoisie s'intéresse aux propos de Massieu et Bijard ? Le monde ne nous plaît pas. Nous préférerions que vous nous parliez de ce que nous pouvons faire pour sortir la France du bourbier où elle est. Sur Méditerranée FM, radio libre aux auditeurs de 12h à 14h le dimanche, la nationalité française pose des problèmes pour retourner au Maghreb, car ainsi il faut un visa. Il a été conseillé d'avoir la double nationalité. Il est demandé des indemnités de réparation pour la colonisation. Alors, que pensez-vous de la réflexion faite par le président chinois lorsqu'on l'excitait avec les droits de l'homme? Il a dit « Que penseriez-vous si je laissais 300 millions de Chinois partir en Europe ?» Sur Africa numéro 1, il a été rappelé que la charia est instituée à partir de demain dans tout le nord du Nigeria. Fuite éperdue de tous les chrétiens et église brûlée. Dans le Figaro d'aujourd'hui,
il y a un article consacré à l'Indonésie où il est écrit que plus de 100 morts aux Moluques dans le nouveau heurt entre musulmans et chrétiens. On voit en photo un musulman qui tient sur son épaule un sabre gigantesque et sur l'autre un marteau et des clous pour crucifier les chrétiens. Si Serge Le Bekech veut se rendre compte de l'importance numérique de l'immigration, il devrait aller faire un tour à la fête de la musique où 80% des jeunes sont des immigrés.
C'est vrai que je m'en suis pas aperçu, moi. J'ai rien remarqué. C'est bizarre. Je dois pas être très attentif.
Apparemment, vous êtes surpris de la situation de l'immigration actuelle en France. Finalement, tout est orchestré pour créer une situation impossible qui, dans les 3 prochaines années, déclenchera en France et en Europe une guerre civile. Ceux qui tirent les ficelles.
Ah, on va savoir.
S'en iront. Alors là, je ne comprends pas la suite.
Bon, je crois qu'il vaut mieux ne pas comprendre.
S'en iront et nous laisserons. Ouais. L'attitude du gouvernement français envers l'Algérie n'est-elle pas tournée vers l'avenir ? En ce sens que si nous ne prenons pas la place dans le développement de l'Algérie, d'autres le feront.
Mais qu'ils le fassent donc, nous, on l'a fait pendant 130 ans. Alors, ça.
C'est ce qu'a dit Bouteflika, si vous voulez pas travailler
dans le micro.
Dans le micro.
C'est ce qu'a dit Bouteflika, si vous voulez pas travailler avec... Si la France ne veut pas travailler avec nous, il y aura d'autres pays. C'est aussi une insulte à la France, et comme il a dit, d'autre part, si Air France ne veut pas venir, il y aura d'autres compagnies. C'est vraiment invraisemblable.
Bien, on va. Je crois qu'on a largement donné la parole aux auditeurs. Il y a des centaines de questions. Vraiment, là, il y a des questions par
oui,
paquet
ça, de 12. Ça, alors, ça revient sur ce qui vient de dire.
Voilà, on a exprimé l'essentiel de ce qui a été dit. On a d'autres sujets à évoquer. Je voudrais quand même qu'on parle peut-être, même sûrement, d'un sujet qui me paraît fort intéressant. C'est cette affaire, cette fusion Vivendi-Cigram. Parce que j'ai entendu M. Messier dans l'émission d'El Kabach il y a 2 jours. C'était tout à fait extraordinaire. On avait l'impression qu'il venait d'enterrer toute sa famille. Il parlait d'une voix blanche. Visiblement, c'est un homme qui est terrorisé à l'idée de ce qu'il vient de faire. Et d'autre part, bon alors, résumons ce qu'il vient de faire. Il vient de faire un échange d'actions avec Cigram, qui est le plus grand alcoolier du monde.
Le deuxième
alcoolier du monde. Et Vivendi a donné une partie des actions de Vivendi à Cigram, Cigram ayant donné une partie des actions de Cigram à Vivendi. Ce qui constitue, d'après eux, le plus grand ou le deuxième plus grand groupe de communication.
Oui, et le résultat, c'est que les actions sont tombées des deux côtés.
Non, justement, c'est ça qui est très étrange.
Attends.
Les actions Vivendi ont baissé, les actions Cigram ont augmenté. Voilà. Alors,
c'est le patron de Cigram.
Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'Emmanuel Ratier, vous avez une idée.
Mais Emmanuel, c'est ça.
Ça fait rire.
Moi, je ne sais pas pourquoi je pose une question.
Je suis toujours étonné. Ça me fait penser.
Jacques
Berger racontait une histoire, comme ça, c'était un prof de physique qui faisait une démonstration sur un tableau noir, et à un moment, au lieu d'écrire, je ne sais pas, sigma de mu, il a écrit sigma de nu, et toute la salle a éclaté de rire. Alors, c'était une salle qui était constituée de physiciens de haut niveau. Et là, ça me fait un peu cette impression, d'un seul coup, on dit sigram et Camille Galli qui éclate de rire. Je vois l'œil de François Brignot qui frise. Je vois bien que Claude Giraud a posé la question avec un petit sourire.
Attends, tout innocent.
Comme toujours, quoi, je suis le dernier informé. Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais c'est en toute innocence, et pas du tout en toute innocence, mais en tout cas, c'est en toute innocence vis-à-vis des lecteurs de l'ensemble de la presse française classique ou des grands médias, puisque personne n'a expliqué ce que c'était que Cigram. Alors, et mis à part les gens qui lisent nos journaux soigneusement,
qu'ils doivent les lire.
Ou qui ont pu lire mon encyclopédie politique ou des choses comme ça, ils sont absolument ignorants de ce qu'est Cigram. Bon, Cigram est une entreprise colossale canadienne, mais qui a bénéficié de d'avantages fiscaux.
Canadienne.
C'est une canadienne. Et ça a permis au grand-père de l'actuel PDG de Cigram, qui va devenir vice-président de Vis-à-Vi, qui est la fusion entre les deux. Le grand-père de M. Bronfman est très connu aux États-Unis parce qu'il a fait une fortune colossale au moment de la prohibition. En fait, c'était un trafiquant d'alcool. Ils étaient installés au Canada, ils faisaient de l'alcool, ils avaient des bateaux, ils avaient installé leurs usines d'alcool à la limite de la frontière, mais à l'intérieur du Canada, où l'alcool était autorisé. Et ils avaient des vedettes et des bateaux très rapides qui chargeaient, et ils allaient livrer dans les ports de la côte est américaine.
Où ils ont fait des milliers de morts parce qu'il s'agissait d'alcool frelaté.
Bon, enfin, il y avait des fois où l'alcool n'était pas extraordinaire. Et ils ont fait
une fortune. Avec la dope actuellement. Bon.
Et peu à peu, ils ont acheté toute une série d'alcools de marques très célèbres. Ils ont beaucoup poussé les whisky. Ils sont propriétaires
parmi
les... Bon, ils ont racheté des marques de cognac. Ils ont racheté en France des marques de champagne. Ils possèdent beaucoup de... les jus d'orange, les eaux, les boissons non alcoolisées, ce genre de choses. Et ce sont à peu près les deuxièmes ou troisièmes mondiaux au niveau de l'alcool dans le monde. Et en même temps, le numéro 2, c'est-à-dire le fils de ce qu'on appelle les bootleggers, c'est les trafiquants d'alcool, qui est M. Edgar Bronfman, est l'actuel président du Congrès juif mondial. C'est lui qui a été toujours extrêmement actif. Il a été en même temps un des 10 membres du Mnaïm Brit les plus importants au niveau mondial. Il a été président de la Ligue anti-diffamation du Mnaïm Brit, qui est le bras armé.
Qui est la police de la pensée.
Voilà, aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui avait des relations extrêmement étroites avec les pays de l'Est. Son avion avait le droit d'atterrir sous le communisme sans avoir besoin de l'indiquer à l'avance. Ils ont eu l'autorisation. Il avait des relations extrêmement étroites avec, si je me souviens son nom, avec Andropov. Il a eu des relations très étroites avec les dirigeants par la suite. C'est eux qui ont été les bouts de feu à propos des avoirs des Juifs disparus pendant la Seconde Guerre mondiale qui n'avaient pas été... demandé. Donc auprès des banques, des compagnies d'assurance, ce sont eux qui orchestrent le jeu au niveau mondial pour les remboursements de ces sommes qui se trouvent dans un certain nombre de banques, y compris israéliennes.
Donc c'est bon pour nous.
Bon, donc c'est pas du tout. C'est en même temps, ils sont très très importants dans le domaine du cinéma parce qu'ils possèdent Universal.
Voilà,
vous qui savez bien ces choses, Emmanuel rappelait qu'il y a un an à peu près, il y a eu aussi une fusion avec des groupes de communication de cinéma, de fabricants de disques.
Colossal.
Ce qui fait qu'il y a une possibilité d'inonder la planète.
C'est-à-dire qu'en ce moment,
et de télévision, parce que Canal Plus est là-dedans.
Bon, et surtout, ils ont un réseau au niveau. Ils ont un réseau américain. En fait, le système, c'est qu'ils font une espèce d'intégration totale, c'est-à-dire qu'ils font à la fois du cinéma, de la musique, de la presse, du divertissement avec les CD-ROM, les jeux vidéo. Ils détiennent des salles de cinéma, ils détiennent des télévisions, des radios, Internet, maisons d'édition, et il est...
J'allais dire, si vous voulez pas donner le fric à Bronfman, il faut boire l'eau du robinet, mais non, parce que là, c'est...
Oui, alors là, maintenant, bon,
l'ambiguïté...
L'eau du robinet. L'ambiguïté qui se produit, c'est qu'en fait, Vivendi, les gens connaissent pas forcément Vivendi, en fait, c'est l'ancienne compagnie générale des eaux, qui a changé de nom, et l'essentiel de son... De son chiffre d'affaires était réalisé dans la distribution de l'eau en France. C'est un des deux grands avec la Lyonnaise des eaux.
Et puis, c'est-à-dire que c'est à l'origine de quantité de scandales avec les élus également et du financement occulte des partis.
Bon. Et donc ils font l'essentiel de leur l'argent en France et dans un certain nombre de pays du monde avec la distribution de l'eau. On sait que c'est un bien rare, etc. Je vais pas l'expliquer ici. Il y a des gens qui le feraient mieux. Et pour le moment, l'essentiel de leur bénéfices viennent de là. Et le pari de Messier, pourquoi son action baisse? Tout simplement parce que il y a le Nasdaq, il y a les indices des start-up, etc. Mais pour le moment, dans le domaine de l'Internet, personne n'a jamais fait de bénéfices. Tout le monde n'a jamais fait que des pertes. Bon, or là, il oriente Vivendi vers un domaine qui est très risqué, qui peut à la fois entraîner la faillite de sa société ou être le super jackpot. Bon, et comme les boursiers et les analystes n'aiment pas prendre trop de risques, et ils considèrent qu'il y a une trop forte entrée dans ces domaines que Messier avait d'ailleurs déjà poussé et qui lui avait valu un certain nombre de déconvenues ces dernières années. C'est pour ça que, je pense que c'est largement pour ça que l'action baisse actuellement. Elle peut pas remonter par la suite. J'ai oublié, ils possèdent aussi, par exemple, ils possèdent CGTEL. Ils ont des réseaux de téléphonie. Ils rentrent dans le domaine du WAP, etc. C'est toutes les nouvelles technologies de demain. Bon, mais en même temps, il y a un arrière-plan politique très très important.
C'est évident.
Alors, on boit plus d'eau.
On boit plus
on boit pas de jus de fruits.
On va mourir de
et temps. Surtout alors, pas regarder Canal Plus.
Alors de toute façon, ce qui semble, c'est que le groupe Seagram, qui s'associe donc avec Vivendi, vont se il y a de très fortes chances, d'ici quelques mois, ils vont se débarrasser de toute la partie alcool, eau, etc., qui les intéresse plus.
On va pouvoir reboire, alors.
Qui pourront être sans doute vendus par niche, et qui vont rapporter beaucoup d'argent, mais ils considèrent que ce sont des investisseurs qui travaillent à 20 ou 30 ans à l'avant, et ils considèrent que ça fait partie de l'ancienne économie, et que ça les intéresse plus.
Merci Emmanuel Ratier. Pause technique.
Ensuite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet de satellites TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21 juin 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 22 juin, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Eh bien, on reprend cette émission. On a eu bien des émotions. Il faut quand même que je vous raconte que Daniel Amiche est arrivé avec tous ses invités pour la deuxième partie. Or, moi, j'avais décidé qu'on faisait 3 heures. Et lui avait décidé qu'il faisait sa deuxième émission, sa deuxième partie, comme d'habitude. Donc, léger désordre, quand même. Alors, je sais pas qui doit s'excuser. Moi, je crois pas que c'est moi. Enfin, on n'est pas fâchés pour autant. Il fera une demi-émission la semaine prochaine. Vous voyez que je vous révèle tous les dessous de nos petits malheurs. Alors autour de cette table qui vient de perdre la moitié de son charme puisque Claude est parti et il ne reste enfin le tiers de son charme parce qu'il y a Victoria, c'est vrai, pardon.
Bon,
oh là là, quelle honte. Donc il ne reste que Victoria et Camille. François Brugnot va rester encore peut-être quelques minutes avec nous. Mon excellent camarade Ratier, mon excellent camarade Varane qui est toujours là, National Hebdo, Fès et Documents, Rivarol, Mondévi est parti. Et François qui nous représente tous un peu. Enfin,
Et Victoria qui lit les messages auditeurs et qui vous dit « Monsieur Ratier, ne fait-il pas une erreur de raisonnement ? Dans 30 ans, l'eau vaudra plus cher que le pétrole. »
C'est possible. C'est pas lui qui fait une erreur de raisonnement.
J'ai dit c'est un bien rare. C'est voilà. Exactement la définition d'un produit qui va monter.
Voilà. C'est Messier qui fait peut-être une erreur de raisonnement. François, on a 2-3 minutes pour parler de vous avant que vous ne partiez.
Parler de moi ?
Oui.
Enfin, pas la peine de parler de moi.
Oui,
mais...
moi aussi, bon, ça m'intéresse quand même. Parce que vous avez la gentillesse de collaborer, de donner des articles au Livre Journal, comme à présent d'ailleurs.
Oui, oui, mais...
Et ça, c'est en préparation d'un... On peut le dire ?
Oui, on peut le dire. Oui, enfin, préparation d'un livre. J'écris une sorte de journal de 7 ans 2000. Et donc, j'extrais de... chaque semaine, pour présent, pour Pelletier, de temps en temps
ah
pour
oui,
toi.
Ah oui, Pelletier, bien sûr, le journal sur Internet.
Des passages comme ça, puis d'autres, j'espère pouvoir brocher tout cela à la fin de l'année. Ça va faire un très gros livre, donc je serai obligé enfin, de couper beaucoup. Mais ce que j'aurais voulu dire ce soir, c'est que je trouve qu'on a, on a traité d'une façon un peu cavalière le quinquennat. Parce que moi, je crois que c'est une... Nous vivons un moment important de la vie politique française. Je crois que cette affaire, comme elle a été emmanchée, si j'ose dire...
Oh, le mot est parfait, là, en plus.
...va avoir trois conséquences graves. Enfin, importantes, graves. Jamais rien de grave en politique, hélas. Mais... D'abord, je pense que le président de la République va être quand même discrédité. C'est bien que l'opinion, ça se fabrique, ça revient, on peut faire beaucoup de choses et elle peut être tout à fait malléable. Mais voilà quand même un homme qui, en un an... C'est déjugé deux ou trois fois. Il était pour le septennat et déclarait le 14 juillet 99 que c'était la meilleure chose, que le quinquennat était pas bien. Un an après, 10 mois après, il dit mais pas du tout. J'ai toujours été pour le quinquennat et d'ailleurs je vais le faire. Alors comment je vais le faire? Il ne sait pas encore comment il va le faire. De quelle façon? Est-ce qu'il ira par le Congrès? Est-ce qu'il ira par le référendum? Il dit un jour blanc, un jour noir. Et il semble pris au piège, et il est pris au piège, par un piège qui lui a été tendu par Giscard d'Estaing. Et alimenté ce piège en sournois par Jospin. Et le voilà à l'heure actuelle dans une situation... assez dramatique, parce que s'il le fait par le Congrès, s'il fait cette réforme par le Congrès, il aura l'air de fuir le référendum, donc le peuple souverain dont il disait tant de choses.
Ça commence déjà à se préparer un petit peu. On nous dit que c'est très 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 cher un référendum. C'est 100 fois plus cher qu'un...
C'est d'ailleurs admirable maintenant, oui, ce souci d'économie, ouais. des hommes politiques.
Et s'il le fait, et s'il y va au référendum, c'est dangereux pour deux raisons. Parce que malgré les sondages, rien ne dit que le oui gagnera, ou qu'il gagnera peut-être d'une courte tête. Et ce qui risque d'être grave, c'est qu'il y aura un nombre considérable d'abstentions.
Parce que c'est vrai que
quand on voit l'affaire de Mulhouse... C'est quand même une chose énorme que sur 68 000 électeurs, il y a eu un petit tiers qui a été voté. Et dans ce petit tiers, 10% de ce petit tiers a encore voté nul. C'est assez consternant pour les gens. Je vais revenir là-dessus.
C'est évident que si le quinquennat mobilise 25% des inscrits et qu'il obtient 12%,
c'est un échec pour qui? Pour l'organisateur. Ouais. Donc pour lui. Et c'est bon. Secondement, la Ve République, par cette histoire-là de quinquennat, elle est aussi, elle, ébranlée. On voit très bien que le 5 ans, ça n'ira pas, ça va pas aller tout seul, et qu'on est rentré dans la 6e République. Ça, c'est sûr, l'héritage gaulliste, on nous parle d'un système présidentiel, parce que j'entends les gens qui sont pour les 5 ans dire que, parce qu'ils sont contre la cohabitation. Mais rien ne dit que le 5 ans changera quelque chose à cela. Il peut y avoir une élection présidentielle et des élections législatives le même jour. rien ne dit qu'elles donneront un résultat différent, mais rien ne dit qu'elles ne donneront pas un résultat contradictoire. On a vu des choses comme ça arriver. On pose deux grilles différentes sur le même corps électoral, mais ça peut donner deux résultats différents.
Il y a même de bonnes raisons pour que ça arrive. Le fait, par exemple, que je pense à quelqu'un dans mon genre qui dirait Chirac plus jamais et qui irait voter Jospin, ça ne veut pas dire que dans sa circonscription, il va voter pour le candidat socialiste.
Mais même sans... On peut avoir les gens qui votent tous, mettons, pour Chirac et pour l'opposition RPR-UDF, et on peut avoir ne pas le même résultat. L'exemple type, c'est Marseille, où il y avait eu une majorité de droite aux élections municipales, mais c'est la gauche qui est passée parce qu'il y avait un système de découpage.
Exactement.
Et c'est plus du tout la même. Il y a une circonscription nationale pour le référendum, et vous avez des circonscriptions cantonales, législatives, sénatoriales. Vous n'avez absolument pas les mêmes résultats, avec le même nombre de voix.
En plus, et puis là, la concomitance, il y aura concomitance parce que, en raison de la dissolution, mais il peut y avoir une autre dissolution, il peut y avoir le décès du chef de l'État, et à ce moment-là, de toute manière, le mandat présidentiel et le mandat législatif ne coïncident plus.
Non, mais même si c'est en même temps, c'est pas sûr que ça soit la même chose.
C'est ça.
Mais est-ce qu'il va aller jusqu'au bout?
Ça, j'en sais rien.
On peut aussi se poser la question.
Il peut encore changer d'avis.
Ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va faire des troubles. En plus, il y a une chose que les gens oublient, c'est que l'électorat français, il est peut-être favorable à la cohabitation, au fond de lui. Parce qu'il y a un vieux réflexe libertaire chez les Français. Et au fond, ils se méfient du pouvoir. Donc, en votant blanc d'un côté et noir de l'autre, il espère que ça sera gris et qu'il sera protégé parce que ces deux forces vont se neutraliser. Et ça, c'est au fond... J'ai été frappé qu'il y a eu en 1986 et en 1997 deux cohabitations volontaires faites par un électorat qui n'avait pas quand même tellement changé, puisque les socialistes étaient arrivés en 80, 5 ans après... Il donnait quand même la victoire à la droite. Tout ça, c'est assez curieux. Et enfin, la troisième chose, qui est bien plus importante, je me demande si on n'est pas en train de découvrir que l'élection n'est pas la vraie source du pouvoir. Si le peuple français n'est pas en train de découvrir ça. Parce que le dégoût, c'est vrai, les affaires, c'est vrai que quand on voit que Dumas a réussi encore à se sauver des flûtes, on dit « Ah, il nous ennuie, non, tout ça n'est pas bien ». Mais il y a autre chose. Pour arriver dans une élection comme à Mulhouse, où il n'y a qu'un tiers de gens qui s'expriment, c'est peut-être qu'ils n'y croient plus. Et si ils n'y croient plus, ça va être très grave, parce que si cette démocratie, cette fausse démocratie, qui est basée sur le suffrage, si le droit de vote est brusquement transformé au devoir de voter, au lieu de réclamer un bulletin de vote, si l'électeur se dit « vous pouvez vous le mettre où je pense », Mais c'est une révolution fantastique. Il n'y a pas besoin d'états généraux ni de rien du tout. C'est que les gens ils disent « Je préfère rester chez moi, je vous enquiquine ». Et ça, nous sommes pas loin, mais on sent monter cela. C'est pas politique, c'est viscéral.
Alors c'est d'autant plus étrange. Je ne sais pas si vous quelle est votre opinion là-dessus, François. Mais moi, je veux dire que j'ai été frappé, déçu, vraiment déçu par l'attitude du Front National et du MNR qui disent voter non, alors que c'était l'occasion ou jamais de dire abstention. Vous n'avez pas voulu s'embarquer dans cette carabistouille, parce que ça ne sert à rien et tout. Donc et là, ils s'inscrivaient dans un mouvement général qui va évidemment aboutir très probablement à une super victoire des abstentionnistes, alors que les noms, s'ils l'emportent, ce sera que de la moitié de rien du tout.
De rien du tout.
Alors, de toute manière, je crois que si on va dans ce domaine à prendre une décision, je crois qu'ils vont passer par le Congrès.
il n'y aura pas du tout, il y aura pas du tout de référendum. Comme tu viens de l'expliquer très justement, Chirac prendra trop de risques d'aller au référendum.
Mais on pense aussi que là, non, il va aussi s'affaiblir.
Bah, il s'est autodissous une fois de plus.
En plus, alors, on a beau dire que l'on rattrape ça, mais il sera qu'à 2 ans. D'une réélection, il va perdre la face quand même un peu plus encore. Pour nous, non, on sait très bien ce qu'il en est, qu'il a dit tout et le contraire, ça c'est vrai. Mais les gens, c'est long, c'est une roue immense, l'opinion. Avant qu'elle fasse 1 degré ou un degré et demi de plus, il faut appuyer sur... Mais c'est en train là, d'arriver là. Je le sens, peut-être que j'imagine des choses, mais je sens que nous sommes dans une période grave et qu'un sujet aussi mineur que la transformation d'une durée de 7 ans en une durée là, de 5 ans, elle touche profondément un système parce que le système est déjà très malade.
En plus, on sait très bien que c'est toujours sur des questions annexes, mineures, subalternes, voire dérisoires, que les grands moments de l'histoire basculent. C'est constant dans l'histoire de France.
Enfin, de toute façon, ce qui pend après, c'est la réforme du Sénat.
Ah oui,
c'est ça qui a été c'est le grand piège proposé notamment par Jospin, parce qu'en fait on va dire maintenant, attendez, 7 ans on l'a supprimé, qu'est-ce qui reste en France? 9 ans pour les sénateurs, 9 ans le train de sénateurs, c'est beaucoup trop long. Or le Sénat est un des derniers bastions pour le moment d'une certaine droite conservatrice à la suite d'une surreprésentation des campagnes. Donc, à partir de ce moment là ils vont dire aux sénateurs: ça sera plus 9 ans, et puis on va en profiter pour changer le système d'élection, le système des grands électeurs, ce genre de choses, et ils espèrent se retrouver avec 2 chambres qui soient également à gauche.
Bah, je crois qu'on se dirige avec le Sénat vers un harakiri des sénateurs, comme on l'a vu avec les lords héréditaires à la Chambre des lords en Grande-Bretagne.
Mais je crois que ça a déjà été dit dans le milieu du Sénat,
oui,
qu'ils vont être forcés de revoir leur 9 ans.
Une fois de plus, on voit tout de même la dictature des sondages, parce qu'il a suffi que Giscard lance sa flamèche, comme les instituts, c'est ce que j'écrivais dans cet édito qui n'a pas paru, puisqu'il a été différé pour cause de Douvres, mais il a suffi qu'il lance sa flamèche. Les médias n'avaient rien avec vraiment l'ennui mortel que distille la politique intérieure française, n'avaient rien à se mettre sous la dent, se sont lancés dans des séries de sondages là-dessus, et Chirac, une fois de plus, a enfourché le cheval sondage, et puis il s'aperçoit qu'il va être désarçonné. C'est très grave plutôt... aussi, cette dictature des sondages.
C'est plutôt rigolo, moi. Chirac, on dirait qu'il marche dans un jardin parsemé de râteaux. Chaque fois qu'il prend qu'il fait un pas, il ramasse un manche dans la figure.
Alors, justement, compte tenu de ce qu'il vient de dire, de François, est-ce qu'il ne serait peut-être pas quand même nécessaire d'être obligé, qu'une loi oblige les Français à voter?
Ils voteront en blanc.
C'est la transformation du droit de vote en devoir de vote. Comme
oui,
en
mais ça.
Et alors la Belgique, c'est pas un bon exemple à l'heure actuelle.
Mais là, je crois que justement, le seul avantage de la situation actuelle, s'il y a beaucoup d'abstentionnistes, c'est que comme en France, on a toujours refusé de prendre en compte le vote blanc, les abstentionnistes, les votes nuls, les votes blancs, tout ça, c'est la même chose. En gros, c'est-à-dire c'est des suffrages non exprimés. Bon, si ils ne vont donc pas prendre la décision, ces gens qui sont en train de manipuler la démocratie, ils vont pas prendre la décision de rendre évident par les urnes le mépris et l'indifférence, au moins l'indifférence et probablement le mépris que leur vouent les électeurs. Parce que s'ils font un devoir de vote et qu'ils se retrouvent avec des gens qui se déplacent pour dire merde dans l'urne, hein, comme disait Jean-Antonio, votez dur, votez mou, mais votez dans le trou. Si c'est ça qui se passe, ils vont là avoir l'évidence que 80% des gens ne veulent plus entendre parler de cette forme de régime. Et ça, on est en face d'une crise constitutionnelle grave.
Politiquement, d'une importance... Voilà. C'est en dehors des partis, c'est une rébellion... pas des citoyens, des Français.
Oui, mais là, je crois que, justement, il y a quand même, enfin, pas d'ailleurs, pas seulement en France, ça a commencé avec les États-Unis et on le voit également avec l'Allemagne. Il devrait y avoir une grande réflexion au sein même des partis sur l'organisation démocratique.
Ce sera bien la première fois que les partis se mettraient à réfléchir.
Ah, oui, mais s'ils veulent survivre, s'ils ne... il me semble...
Général, c'est pas à cet endroit que ça se passe. François, merci d'être venu nous voir. Et puis on vous rend votre liberté, que vous n'avez pas du tout aliénée d'ailleurs.
Qui va gagner, François, tout à l'heure?
La France, bien sûr.
Le micro.
La France, mais voilà. Enfin, c'est pas sûr.
Alors, puisqu'on parle du foot, il y a dans l'actualité, il y a quelque chose. Ben, François, une seconde. il y a quelque chose qui m'a frappé, c'était quand même le joyeux racisme et la joyeuse discrimination qu'on pratique à propos des hooligans britanniques, de l'amalgame britannique-hooligan, où on trouvait très bien de les renvoyer tous chez eux, oui, sans c'est... savoir s'ils étaient honnêtes supporters ou vraiment violents, et le silence total sur les provocations des fanatiques, puisque les supporters turcs s'intitulent les fanatiques, s'appellent eux-mêmes fanatiques avec un K, et les fanatiques turcs venus de Turquie, soutenus en Belgique par les résidents turcs et les jeunes maghrébins venant prêter main forte aux Turcs.
Ouais, c'est intéressant.
Contre les Britanniques.
C'est une bonne remarque, effectivement.
Bon, ça me frappe.
Personne
quand
n'en a
même
pas...
que.
Et puis, on n'a pas entendu parler de charter vers la Turquie.
Le message de Zidane. On revient à Bouteflika. Le message de Zidane à Bouteflika, regrettant beaucoup de ne pas se trouver au raout du pavillon Dauphine pour cause de match.
Voilà, bonne réflexion tout ça. Alors je reçois maintenant vous voulez un commentaire, François?
Non,
vous voulez vraiment partir maintenant?
Je suis quand même supporter de la France, moi.
Voilà,
malgré Zidane.
Ah oui, il est très bien, Zidane.
Je trouve qu'il joue très bien.
Il joue très bien au football, c'est tout ce qu'on lui demande.
Et puis,
enfin, même pas moi d'ailleurs.
C'est quand même, il faut quand même dire une chose, c'est que dans le football, il y a quand même l'école française qui est une des premières écoles du monde, parce qu'on a éduqué en 30 ou 40 ans, on est arrivé à l'heure actuelle à avoir les 11 joueurs qui font l'équipe de France, la première équipe de France, sont des joueurs, il n'y a pas un qui joue en France. Bon, c'est grave, c'est ennuyeux, mais ça prouve aussi qu'ils sont devenus parmi les meilleurs du monde, puisqu'on les prend au Bayern de Munich, à Milan, à Madrid, à Chelsea, à l'Arsenal de Londres, etc., etc. Ça prouve que l'organisation du football français, à partir d'un simple instituteur qui s'appelait Georges Boulogne, a fait des progrès formidables en 40 ans, et qu'il y a derrière une équipe plastron, une équipe phare, il y a 2,5 millions de jeunes garçons qui tapent tous les samedis, tous les dimanches, tous les jeudis, dans un ballon en France, et je trouve ça formidable.
En plus, ça prouve qu'on arrive à faire sortir des écoles, grâce à des instituteurs, des gens qui savent faire quelque chose, c'est quand même plutôt rassurant. Merci François.
Serge, j'ai une question pour François Brignon.
Ah bah, ils veulent pas vous laisser partir.
Non. Permettez-moi, à titre exceptionnel, de ne pas être tout à fait d'accord avec vous. Je préfère, plutôt que de m'abstenir, voter nul. C'est-à-dire préparer à l'avance un bulletin sur lequel j'aurai synthétisé ce que je pense de la démocratie, de la République, etc. Et une autre auditrice suggère...
Ça va finir par des grossièretés.
Non, si un nombre important de Français corrigeait leur bulletin de vote du quinquennat s'il y a un référendum... Donc ça, c'est une suggestion pour M. Chavanis. Ah oui. Pour exprimer leur refus de l'immigration, ça ferait du bruit.
Voilà une bonne idée.
Bon, oui, mais moi, je n'ai rien dit de cela.
Non.
J'ai pas dit qu'il fallait voter nul, qu'il fallait voter oui, qu'il fallait non. J'ai essayé d'expliquer les conséquences du quinquennat. Mais je ne me permettrai pas de donner
des consignes de vote,
parce que je dois dire que le quinquennat, je m'en fous, le septennat, je m'en fous, le vote nul, je m'en fous. D'abord, tout le monde sait que je suis mort depuis un an et demi. Hein.
Au revoir François, à bientôt.
Au revoir,
mes enfants.
Au revoir François.
Voilà, on va. Donc je reçois maintenant, enfin nous recevons maintenant à cette table qui perd en journaliste. François vient de partir. Claude Giraud a rejoint son équipe de Monde et Vie. J'ai demandé au commandant Bunel de venir ce soir. Bon, je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter le commandant Bunel. Vous avez devant vous un traître dans toute la splendeur, dans toute la beauté du personnage tel qu'il a été défini par ses dénonciateurs. Et je l'ai invité parce que je pense qu'on a beaucoup donné la parole à ceux qui l'ont accablé et pas beaucoup à sa défense. Et je l'ai invité aussi parce qu'il vient de publier un livre qui s'appelle « Crimes de guerre à l'OTAN », qui est quand même quelque chose d'un petit peu de soin, je dois dire. Ça, je ne crois pas qu'au début, vous étiez, commandant Bunel, prêt à faire quelque chose d'aussi dur. Quand on avait parlé de votre projet d'écrire un livre, je n'avais pas l'impression que vous étiez aussi déterminé à lancer des accusations d'une gravité incroyable.
J'étais déterminé à informer les citoyens français de ce qu'on fait et de leur souveraineté et des impôts qu'ils payent. Puisque la France paye 16% du budget de fonctionnement de l'OTAN, et qui a beaucoup à dire sur l'OTAN telle qu'elle est devenue maintenant. C'est vrai que j'avais pensé à un titre plus doux, plus calme. Je ne suis pas un va-t-en-guerre excité, mais en revanche, je suis un homme extrêmement déterminé. Alors, comme on m'a accusé d'un crime qui est celui de trahison, ce qui, pour un officier patriote, fils de patriote, officier d'ailleurs, frère d'officier, et pour moi, je crois, ce qu'il y a de pire, eh bien, j'ai décidé de dénoncer quelques-uns, parce que sinon j'aurais dû réécrire l'Encyclopédia Universalis et je n'en ai pas le talent, j'ai décidé de dénoncer quelques-uns des crimes qui ont été préparés, avec préméditation, et commis en notre nom. Alors, le titre du livre, c'est « Crimes de guerre à l'OTAN ». Et non pas crime de guerre de l'OTAN. Car l'OTAN est une organisation, elle n'existe donc que par ses dirigeants, c'est-à-dire ceux qui donnent les ordres aux forces de l'OTAN, c'est-à-dire les hommes politiques des pays qui constituent l'OTAN. Voilà, donc...
Alors ce livre est paru, on va donner l'éditeur tout de suite, il est paru chez...
Il est paru aux éditions numéro 1.
Numéro 1. Et il paraît au moment où vous attendez votre procès.
Oui, c'est pas tellement ça que nous avons visé avec l'éditeur. Nous avons visé, il y avait deux dates possibles, ou bien le 25 mars, ou bien le 13 juin. Alors, nous avons décidé de choisir le 13 juin, parce que nous sommes bien informés, et nous savions qu'il y avait des travaux conduits par un certain nombre de journalistes, pour essayer de faire un mea culpa sur le fait qu'ils aient cautionné la propagande otanienne pendant les 11 semaines de bombardement. Alors, nous avons décidé de le sortir le 7 juin, mis à disposition des libraires, de façon à ce qu'avec le temps de latence, ce soit entre le 10 et le 15, que ce soit dans les bacs de librairie. Nous ne savions pas qu'Amnesty International allait de son côté adresser un rapport au procureur du tribunal pénal international sur ce sujet. Or, par des moyens différents, nous arrivons aux mêmes conclusions. Alors, si vous voulez, ces crimes de guerre, je crois que le pire, ça a été de choisir délibérément des cibles civiles.
Ça, c'est des accusations très précises que vous
avez,
qui sont parfaitement étayées.
Et c'était prémédité depuis septembre 1998. Or, les conventions de Genève, qui font partie du rare droit international, je dirais objectif, puisque écrit, accepté, et accepté par tous les pays de l'OTAN, entre autres, ça l'interdit formellement par son premier protocole additionnel que tous les chefs militaires connaissent. Et ce premier protocole additionnel précise, je ne veux pas le citer parce que ce serait soporifique, précise que, en tout temps, les parties à un conflit doivent faire la sélection et la séparation entre les personnes civiles et les militaires, et entre les biens d'intérêt civil et les biens militaires. Or, délibérément, dès septembre 1998, il a été décidé de prendre un certain nombre de cibles civiles sous prétexte qu'elles étaient d'intérêt stratégique.
Puis-je poser tout de suite une question à ce moment? Pourquoi?
Eh bien, parce que
Jean-Claude Varane, National Hebdo.
Il avait été décidé d'utiliser les forces de l'OTAN. Alors, les forces de l'OTAN se sont entraînées pendant 40 ans à faire la guerre contre les invasions de hordes de Cosaques venant de l'autre côté de l'Oural.
C'était le désert des Tartares.
Et les forces de l'OTAN ne savent pas faire la guerre autrement. Le problème est le suivant, c'est que s'il y a au sein des pays de l'OTAN un certain nombre de pays qui sont capables de faire la guerre autrement, et je l'ai fait, je l'ai vécu avec les Britanniques, avec les Néerlandais, les Américains, eux, ne savent pas faire autrement. Ils sont victimes de la planification, et alors, comme il faut de temps en temps trouver quelques éléments drôles, eh bien, il y en a quelques-uns dans mon livre, et en particulier, comment, sous prétexte de planification conduite de manière politico-pratique, les Américains de la division multinationale Nord ont fait louper le déploiement de leur division pendant que les Français avec Espagnols et Portugais, les Britanniques avec Néerlandais et Finnois ont réussi leur déploiement. Alors, si vous voulez, il y a dans mon livre un certain nombre d'explications qui vont paraître simplistes. Et en fait, elles sont simples, car j'ai découvert, après avoir souffert des incohérences politiques, des mesures que nous avions à appliquer sur le terrain, j'ai découvert, en fait, à l'OTAN, dans certains cas, les raisons, j'allais dire profondes, mais non, elles sont superficielles, de certaines prises de décision ou de certaines annulations de décision. Et il peut paraître sidérant que sur des domaines aussi importants que la relation OTAN-Russie ou OTAN-Ukraine, on décide, parce que la réunion a pris un peu de délai, parce qu'effectivement, si on se réunit pour trouver des solutions, des fois, il faut peut-être décaler le décollage des avions d'une demi-heure ou trois quarts d'heure. Eh bien, j'ai vu un diplomate français dire, en se rendant vers les couloirs de l'ambassade de France à l'OTAN, « Mais on s'en tape de la relation OTAN-Russie. Moi, j'ai un dîner à Lyon. » Ne riez pas, j'étais là.
C'est quand même fabuleux. On croit rêver, non?
Alors, si vous voulez, en ce qui concerne les relations internes à l'OTAN, il va y avoir des surprises, je pense, de la part des gens. Si, en ce qui concerne l'Irak, il y a manifestement une coalition américano-britannique pour des raisons de prix du pétrole, en ce qui concerne les relations internes à l'OTAN, les Britanniques ont beaucoup déploré que depuis 1966, nous les ayons laissés seuls face au tandem germano-américain de l'OTAN. Et d'expérience, j'ai pu voir que c'était assez vrai. Finalement, les Allemands sont beaucoup plus des fidèles féaux des administrations américaines que ne le sont les Britanniques. Alors, après ça, on en a eu, si vous voulez, des événements, des faits tangibles, comme le sommet de Saint-Malo, qui a été extrêmement important et qui se concrétise, puisque les Britanniques, M. Blair l'a annoncé, et puis le directeur national de l'armement britannique l'a bien annoncé, pour leur nouvel avion de combat, les Britanniques ont décidé qu'ils choisiraient des missiles air-air, donc anti-avions, de fabrication européenne, qui sont encore à l'étude et en cours de mise au point, alors que les missiles américains existent déjà sur étagère. Bon, ce qui se passe actuellement, c'est que, au niveau de l'OTAN, il y a des querelles d'influence, et un certain nombre de pays membres de l'OTAN sont favorables à la montée en puissance d'un pilier européen de décision au sein de l'OTAN. Et je crois que ce qui a été révélateur, ça a été cette guerre du Kosovo. Pour la première fois dans l'histoire de l'OTAN, on voit un secrétaire général de l'OTAN, M. Javier Solana, quitter son poste immédiatement après que son successeur ait été désigné. Normalement, vous avez une période de tuilage, ça s'appelle, de 6 mois à 1 an.
Terme maçonnique, je précise.
Ah, j'ignorais.
Oui, mais Javier Solana a été immédiatement nommé le monsieur sécurité de,
oui,
de l'Union européenne.
Absolument. Et c'est extrêmement intéressant parce que d'abord, ça veut dire qu'il y en a un. Donc, il y a une volonté européenne de tenter d'avoir une politique extérieure et de sécurité commune, ce qui ne veut pas dire unifiée. Et surtout, M. Solana a été désigné comme secrétaire général de l'OTAN à une époque où son pays avait le même statut vis-à-vis de la France que l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y avait bien un ambassadeur, mais il n'y avait pas de troupes de l'OTAN espagnoles ou de troupes de l'OTAN françaises. Les troupes que nous avons mises à disposition de l'OTAN, elles ont été mises autant que de besoin et autant que la France l'a jugé bon, et pour l'Espagne c'est pareil. Avec le système du commandement intégré, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de troupes qui sont étiquetées OTAN, c'est-à-dire qu'elles sont payées par leur pays, mais elles sont employées par le général commandant suprême des forces alliées en Europe, qui est toujours un Américain.
C'est-à-dire qu'elles sont soumises à un commandement, ce sont des troupes françaises travaillant sous mandat français, payées par la France, mais obéissant aux ordres d'un général étranger.
Alors, attendez, si nous avions des forces sous le commandement intégré, à partir du moment où, par exemple, comme en Bosnie-Herzégovine ou comme au Kosovo, nous avons envoyé des troupes, ces troupes sont sous contrôle opérationnel d'un général étranger, mais la France se réserve de les récupérer en permanence. Alors que si nous avions des troupes sous le commandement intégré, elles seraient payées par la France et mises en œuvre, employées sans possibilité de dire non, à moins de quitter l'Alliance, par un général américain.
Ce serait donc un contingent permanent.
Voilà. Alors, c'est ce qui se passe dans le commandement intégré. Or, ce commandement intégré pose problème. Parce que, on s'en est rendu compte avec l'affaire Alba en Albanie, quand il a fallu fournir des troupes pour intervenir en Albanie, ce qui n'était pas une opération de l'OTAN, mais une opération de l'Union européenne, un certain nombre de pays ont dit, on ne peut pas. Nous n'avons pas de troupes disponibles. Elles sont earmarked, marquées à l'oreille, pour l'OTAN. Donc, qui est intervenu? La France et l'Italie. Donc, si vous voulez, actuellement, compte tenu du fait que, au niveau des relations internationales, que ce soit à l'ONU ou même à l'OMC, qu'on peut beaucoup critiquer, mais qui est une espèce d'ONU de la guerre économique avec ses défaillances, etc., il y a actuellement des litiges avec les États-Unis, avec l'administration Clinton, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que sur une affaire comme Seattle, il y a eu de nombreux manifestants qui étaient des paysans américains. Donc, si vous voulez, il ne faut pas désespérer. Je n'ai rien contre les Américains, je le maintiens. Je suis suffisamment d'amis américains, mais je vomis l'administration Clinton parce qu'elle essaye de nous coloniser.
Mais je m'excuse. À ce moment-là, les États-Unis, à l'heure actuelle, dans les environs du Kosovo, au Kosovo, ont mis des unités de 30 000 hommes entièrement américaines, et oui, dépendant certainement de l'Amérique et n'ayant rien à voir avec l'OTAN.
Ah si, elles dépendent en fait de l'OTAN officiellement, mais à partir du moment où le général commandant en chef est américain, eh bien, elles appartiennent aux Américains. C'est le système de la...
C'est une unité quand même indépendante américaine sur le territoire.
Alors, elles ne seraient indépendantes ou de l'OTAN ou des États-Unis que suivant la volonté du général américain. Nous avons eu cet exemple. Cet exemple, nous l'avons eu en Bosnie-Herzégovine. L'amiral Smith, qui était un Américain, commandait toute l'IFOR, c'est-à-dire...
C'est celui qui s'est suicidé, non?
Ah non, ma connaissance.
Non, c'est pas celui-là.
Non.
Enfin, je vous ai dit.
Bon, donc, on pouvait craindre, et ça a été notre crainte au départ, c'est ce que j'explique dans le livre, on pouvait craindre qu'il fût beaucoup plus proche des intérêts américains que des intérêts otaniens. Nous avons découvert, à notre grande surprise agréable, que ça n'a pas été le cas. Mais, de ce fait, il a été arrivé en fin de commandement, il a été relevé, il n'a pas été prolongé. En ce qui concerne maintenant les Britanniques, je prendrai l'exemple de ce qui s'est passé au Kosovo avec le général Michael Jackson, que je connais bien parce que il commandait une division lorsque j'étais en Bosnie-Herzégovine, et j'allais le voir assez souvent compte tenu du fait que j'étais officier de renseignement au niveau du corps d'armée, donc j'allais voir toutes les divisions. Le général Michael Jackson, appliquant jusqu'au bout le non-accord de Rambouillet, n'a rien fait pour empêcher les Russes d'arriver à Pristina. Et ça, l'administration Clinton ne l'a pas encaissé. Et dès qu'elle a pu avoir sa peau, elle a eu sa peau, et il a été remplacé par quoi? Par un général allemand. Ce qui fait que le proconsulat qui s'exerce sur le Kosovo actuellement est germano-américain. Alors,
c'est le général allemand, c'est celui qui, à peine arrivé au Kosovo, s'est fait voler son arme.
Oui, ça peut arriver. Vous savez, bon, les gens de la Bundeswehr, pendant très longtemps, ont été surtout dans des camps de manœuvre et dans des défilés.
Pas bien connaître le revolver.
Oui, mais ça, bon, écoutez, vous savez, le métier...
Là, on voit quand même la solidarité du corps. Hein.
Le métier...
Même si c'est officiellement...
Non, vous m'avez pas laissé répondre, monsieur Lekech. L'emploi et l'utilisation d'une arme de poing, c'est une seconde nature du militaire.
Parce que même s'il a un fusil, quand il va à la douche, il va pas forcément avec son fusil, mais avec son pistolet. À partir du moment où les gens sont beaucoup plus politiques que militaires, ils oublient facilement leur pistolet.
Oui, d'accord. C'est bien. Merci de ce renseignement. Voilà.
Alors, si vous voulez, j'ai essayé de faire un livre qui soit pas trop long, pour qu'il soit pas trop sopo. J'ai essayé...
Ah, mais il est pas sopo du tout, parce qu'en plus, il est modulaire. Hein, il y a
oui,
des petits trucs,
absolument.
Des petites... une succession d'informations rapides. Ça se lit très très facilement. On peut l'ouvrir. D'ailleurs, c'est une qualité et un défaut. D'ailleurs, on peut l'ouvrir à peu près par n'importe quel bout, on rentre dedans tout de suite. Et on se dit, oh, c'est vachement intéressant, alors on revient en arrière pour reprendre depuis le début, et c'est voilà, très très bien fait. Il n'y a pas de grande démonstration filandreuse, pas du tout,
non,
c'est des trucs très bref.
Ce serait énervant. Alors, en plus, je me suis lâché, donc j'ai essayé de faire ce qui me fait plaisir. Et si on le prend du début à la fin, parce que des fois, il y en a qui le font, si on veut revenir après, en prenant la table des matières... Comme il y a des intertitres, on peut revenir sur ce qui nous intéresse. Alors, ceux qui aiment l'action, il y a de l'action, mais bon, on peut pas se cacher, on peut pas cacher sa personnalité et son vrai fond. Donc, des gens qui l'ont lu m'ont dit, on y trouve un amour de l'humain profond. Je crois que c'est ça. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'en fait, je n'ai jamais pris parti pour un peuple ou un autre dans les Balkans. Je ne suis pas un manichéen, et si je devais être un manichéen, je mettrais dans le même clan tous les oppresseurs et dans le même clan toutes les victimes.
Je crois que votre livre confirme ce que j'avais ressenti quand on s'est rencontré la première fois, puis ce que j'ai découvert après dans vos papiers, c'est que vous êtes quelqu'un de parfaitement honnête. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai, c'est pas un compliment, et c'est même un peu, je dirais, c'est même un peu, c'est presque un reproche qu'on pourrait faire à un soldat, parce que vous êtes tellement honnête que visiblement vous dites toujours, mais où est le bon droit, où est la justice, où est la rigueur, et vous avez une espèce de difficulté à trancher. Sinon, alors, la façon dont vous tranchez, c'est en appliquant les ordres et en étant parfaitement dans l'exécution de votre devoir. Mais à chaque fois, on sent que vous dites, est-ce que c'est bien ça qu'il faudrait faire ? Est-ce que c'est bien honnête ? Est-ce que c'est bien rigoureux ?
Absolument. Il se trouve que je n'ai jamais eu à faire la guerre. Bien que j'ai été sur de nombreux champs de bataille et que j'ai ouvert le feu quand même un certain nombre de fois... D'ailleurs, j'ai pas eu vraiment à tuer en ouvrant le feu, mais s'il avait fallu le faire, je l'aurais fait. Pourquoi ? Parce que la France n'a jamais été en guerre pendant que j'étais, moi, à me servir de mes armes. Et je reprendrai un peu Richard III de Shakespeare. Dans la paix, il faut être calme, bon et ouvert. Et quand le démon de la guerre nous tombe dessus, alors il n'y a plus de cadeau. Je dois dire que si la Yougoslavie de M. Milosevic nous avait attaqué, je n'aurais absolument pas été choqué qu'on utilisât contre elle tous les moyens qu'on a utilisés là.
Ça aurait été la grosse surprise, alors effectivement. Là,
c'est vrai que... Non, mais je n'ai pas dit la Yougoslavie, j'ai dit la Yougoslavie de M. Milosevic. Oui. C'est encore un cas particulier. Mais de toute façon, il n'en a jamais été le cas. Il n'en a jamais été question. Voilà. Donc, je ne suis pas de ces militaires angéliques qui croient qu'on va se servir des armes uniquement pour défiler. Non, si il avait été nécessaire de tirer à tuer, et c'est un ordre que j'ai donné, s'il se passe ça et ça, vous tirez à tuer. Bon, il se trouve que je donnais les ordres, donc c'est pas moi qui les exécutais, mais à la limite, ça ne m'aurait pas gêné de le faire. Je veux dire que ça ne me trouble pas. Mais je suis excédé de ce manichéisme qui correspond si bien au scénario de films de série B qu'on essaie de nous imposer pour les journaux télévisés du soir.
Alors, commandant Mignol, vous reviendrez à ce micro pour parler de votre livre plus en détail. Je voulais que vous soyez là ce soir pour vous présenter à mes confrères de Marie-Camille Gadic de Rivarol, Emmanuel Ratier de Fait Document, Jean-Claude Varane de National Hebdo, et puis également Claude Giraud qui est parti, et François Veillot, vous avez entrevu. Vous reviendrez, on parlera donc
plus à fond de votre livre, et j'espère que vous reprendrez votre collaboration au Libre Journal, parce que vos papiers avaient beaucoup intéressé les lecteurs.
Vous pouvez faire une petite annonce?
Oui, bien sûr. Alors
vous proposer. Ce qui s'est passé, j'ai fait une séance de signature à Maison Lafitte, parce que, bon, à la Maison de la Presse, et j'ai des gens de Radio Courtoisie qui sont venus me voir en disant « Oh, mais on savait pas que vous faisiez une signature. » Donc, ils ont été contents de me dire que M. de Becketch avait eu l'amabilité de parler de mon livre sur Radio Courtoisie. Alors, je refais une séance de signature à Maison Lafitte, à la librairie du Parc. Et si donc il y a des gens qui sont intéressés, ben, je serais très enchanté de discuter avec eux, de m'expliquer avec eux.
Quand
Alors, cette séance de signature a lieu samedi, je pense à partir de 10h, samedi qui vient.
Samedi qui vient, voilà. Ce sera donc le 24 à 10h. Emmanuel Ratier, une question?
Oui, je voulais vous poser une question. Comment marchent vos deux sites internet?
Très bien. Alors là, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir que... j'ai un site qui est un documentaire sur une opération de renseignement. Bon, alors celui-là m'attire relativement peu de commentaires, mais il y a beaucoup de visites. Puisque je le sais parce que j'ai un compte. Cafeté est un acte de combat. Et l'autre, sur lequel j'ai commencé par présenter un petit peu les dessous de mon affaire, et sur lequel je présente maintenant mon livre avec son avertissement, que j'ai d'ailleurs traduit en anglais, m'attire de nombreux commentaires. Et ça fait longtemps que le soutien serbe que j'ai, car j'ai un soutien serbe, a changé de forme. Au lieu de soutenir le héros de la cause serbe arrêté méchamment, le soutien, c'est plutôt les gens qui disent « Mais vous, au moins, vous comprenez que tous les Serbes ne sont pas des monstres. » D'autant plus que, c'est ce que j'ai dit l'autre jour et en public, parce que je n'ai pas à le cacher, je n'apprécie pas du tout M. Milosevic. Mais sa destitution ou son maintien au pouvoir est l'affaire des Serbes.
Bien sûr. Que pensez-vous de l'article du Washington Post disant qu'il pourrait y avoir un deal entre Milosevic et l'administration américaine?
Ça me paraît une évidence. Dans l'état actuel des choses, qui a intérêt à ce que Milosevic reste en place? L'administration américaine. Comme pour Saddam Hussein, d'ailleurs, pour la même raison. Un journaliste qui va fréquemment au Kosovo et à Belgrade m'a dit, j'ai discuté avec des entrepreneurs yougoslaves qui m'ont dit, nous sommes prêts à payer la reconstruction d'un pont 3 fois plus cher si ce n'est pas les Américains qui le reconstruisent.
Non, mais là, l'article du Washington Post, ce n'est pas du tout ça. C'est que les Américains, Clinton a d'ailleurs démenti, seraient disposés à lever les sanctions contre la Yougoslavie en cas de départ de Milosevic pour l'étranger, le pays le plus souvent cité étant la Grèce.
Mais bien sûr, ils essaient de lui offrir une porte de sortie. Mais moi, cette affaire-là me paraît extrêmement trouble. Je n'ai pas d'éléments encore dessus. Oui. Je n'ai pas assez de retours sur cette affaire. Mais ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que s'il y a effectivement une proposition de ce style, elle est sûrement malhonnête. Et c'est sans doute qu'ils peuvent avoir noué des accords secrets, mais je vois difficilement comment. Ils n'en sortiront pas. Actuellement, il y a un problème pécuniaire, budgétaire, et puis il y a un problème de crédibilité de l'administration Clinton qui va partir, avec des boys qui sont au Kosovo, avec de plus en plus, au niveau de la presse, des gens qui se rendent compte de ce qui s'est fait, et ce qui s'est fait sous l'égide des États-Unis à l'OTAN, est difficilement défendable, ne fût-ce qu'au plan du droit, sans parler même de la morale.
Puisque de toute manière, les États-Unis maintenant refusent que la Cour pénale internationale leur soit appliquée.
Absolument.
Mais pour cause. Bon. Alors, donc, la France aussi d'ailleurs.
Oui.
Enfin, curieusement, la France a dit oui, c'est normal, mais pas avant plusieurs années. Et les Américains disent non, pas du tout. C'est-à-dire, ils agissent de façon différente pour les mêmes raisons. Et on voit très bien pourquoi, effectivement. Il est clair que si un général américain, ou voire un politicien américain, se retrouve devant la Cour internationale, pénale internationale pour une affaire de crime de guerre, ça fait quand même mauvais dans le tableau.
Il y a une question d'urgence pour l'administration Clinton. Parce que ça fait boule de neige. ça fait boule de neige, et il y a de plus en plus, alors moi je reçois régulièrement sur mon site, ça m'encombre, enfin pas sur mon site, sur ma boîte aux lettres, ça m'encombre un peu, une communication de gens qui dénoncent tous les a priori, tout ce qui est racisme anti-serbe au sein même des États-Unis. Donc ça c'est une affaire de combat des Serbes, des Américains d'origine serbe, ça c'est leurs affaires, ils m'en informent, je le suis plus ou moins, je ne prends pas parti dans cette affaire, mais il est évident que cette affaire sent tellement mauvais qu'il faut trouver une solution. Ils ne peuvent pas continuer, et surtout qu'ils n'aiment pas avoir des boys trop longtemps là-bas. Plus ça va durer, plus ça va mal tourner.
Ça tourne déjà très
ça
mal.
Ça tourne très mal sur les incidents de frontières entre le Kosovo.
Est-ce que vous avez des informations sur la situation dans la Danica et avec l'armée de libération du Kosovo oriental?
Je n'ai rien de très fiable actuellement, mais cette espèce d'Ucheka bis...
Oui. Qu'il est vrai qu'elle aurait des armes américaines?
C'est vrai, et j'ai vu quelques photos, mais le problème c'est que je ne sais pas si ça vient vraiment de là, le problème d'identification des photos. Je suis coincé en France, je ne peux pas me déplacer pour le moment. Mais j'ai vu aussi des kalachnikovs de fabrication est-allemande, comme on en a déjà vu en Croatie, et quand on en a vu dans la première Ucheka aussi.
Parce que quand j'étais à Belgrade en août dernier, on m'avait... parler d'une aide massive de certains services américains, justement, pour la création de cette Ucheka bis.
Alors, c'est fort possible. Là, je ne veux dire, je n'ai pas tellement d'éléments précis. Les photos que j'ai vues, je suis réticent, parce que, bon, c'est ma formation, si vous voulez. C'est du domaine du probable. Mais j'ai pu réobserver, en tout état de cause, déjà sur la première Ucheka, alors je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas pareil sur la deuxième, j'ai pu voir l'évolution de l'armement au cours des 11 semaines, parce qu'au début on envoyait peu, puis ensuite au fur et à mesure que tout le monde les présentait comme des héros, on voyait de plus en plus d'armement. Et j'ai vu de plus en plus d'armement est-allemand, venant bien sûr par l'Allemagne, faut pas se tromper, et d'armement américain, en particulier en armes anti-char à usage unique, où il y avait des modèles allemands et des modèles américains, fusils de tireurs d'élite du dernier modèle américain, fusil anti-sniper. Bon, alors... Et puis, on peut me raconter ce qu'on veut, il y a eu une propagande terrible, et c'est curieux que maintenant que les journalistes commencent à se poser des questions, et ils se les posent méchamment, ils mettent en cause le service de communication de l'OTAN, il y a eu une émission de télévision sur Arte où carrément on a dit, mais on était habitué à la propagande des uns et des autres, il n'y avait plus que la propagande serbe, il y avait des uns et des autres. Et on a découvert que l'OTAN, qui est nous mentait aussi. Alors, c'est curieux, mais récemment, on est tombé sur une grosse cache d'armement lourd de l'Ucheka.
Oui.
Comme par hasard. Alors, je ne vais pas juger ce qui se passe là-bas, mais avec ce que j'ai connu, avec ce par quoi je suis passé et ce par quoi je passe actuellement, je me méfie énormément de ce que nous disent les gouvernements.
Merci beaucoup. Une dernière question. Beaucoup d'auditeurs, et moi je suis émerveillé de voir qu'il y a tant d'auditeurs maintenant qui sont sur Internet. Beaucoup d'auditeurs demandent votre site Internet.
Alors, on va prendre le premier et le plus simple. Il s'appelle... c'est HTTP, il n'y a pas de www.
Attendez, je note.
HTTP.
HTTP, 2. Il n'y a donc pas de www. Site, tout en minuscule. SITE. Voilà, VOILA sans accent. Point. FR.
En minuscule aussi.
Oui, en minuscule. FR, donc. Une barre oblique. Voilà. Oui, bon.
On écrit en même temps, hein, on est vraiment.
On écrit, on vous élève. Hein.
Pierre.
Qui roule.
Et après, voilà.
Voilà. Point.
Voilà. Point. FR.
Barre oblique.
Pierre.
Un trait de soulignement.
Oui, on souligne Pierre.
Non, un trait. Non, après, non. Comme un.
Ah d'accord. En dessous,
comme un trait
après.
D'union, mais en
d'accord.
Dessous.
Voilà. Bunel.
Bunel.
Il y a un S.
Non. B U N E L.
Voilà. Alors site. Voilà.fr. Oblique. Pierre. Trait de soulignement, Bunel.
Voilà.
Alors le trait de soulignement, j'indique que c'est comme un...
C'est comme celui qu'on a sur le 8 du clavier en français.
Voilà, c'est ça, c'est le 8
sans la majuscule.
Ouais, c'est ça. J'ai eu un moment de panique parce que Franck me faisait 8 avec les doigts. En général, quand il montre avec les doigts, c'est le temps qui reste. C'est pas possible, il reste que 8 minutes.
Et alors une autre question, où le commandant Bunel va-t-il signer son livre le samedi 24? J'ai pas eu le temps de noter.
Librairie du Parc.
à la librairie du Parc, à Maison Lafitte.
Voilà. Une question, est-ce qu'on peut avoir un livre de presse?
Bah, je ne sais pas, ça il faut voir. Il y a un service de presse.
Là, je vais voir par le service de presse.
Ben, moi, je l'ai eu.
C'est pour pouvoir en parler.
Ouais. Librairie du Parc.
Du Parc.
L'adresse.
Maison, avenue du Parc, Maison.
Alors, c'est avenue de Paris, mais je ne sais plus quel est le numéro.
Non, mais ça va avec le vrai. Avenue de Paris à Maison Lafitte, d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des auditeurs qui rappellent le lendemain. Ouais. Comme bien ça, vrai. Ils sauront tout. Voilà.
Bien, et bien maintenant, je me tourne vers un autre combattant d'un autre genre, qui est le docteur Villette. Bonsoir, docteur.
Bonsoir, tout
le monde. Alors, docteur, vous avez lancé, il y a plusieurs années déjà, une série d'initiatives qui tournent toutes autour de la nécessité du rosaire, la nécessité du combat contre l'avortement. Et je voudrais que vous fassiez un petit panoramique de ces initiatives, que vous nous disiez où vous en êtes et quelles sont vos activités actuellement et quels sont vos projets.
Tout d'abord, pour ne pas avoir l'inconvénient d'avoir le chiffre 8 dans la glace, combien de temps ai-je?
Non, 10 minutes, un quart d'heure, allez-y.
Non, parce que je crois qu'il y a quelqu'un encore
après.
Oui, il y a quelqu'un. Alors, il faut que je sois gentil avec lui, parce qu'à 9h, ça va sonner. Parce que je peux parler pendant 30 ans, étant donné que ça fait 30 ans de combat.
Ouais, ça va peut-être un peu long. Alors.
Voilà. Et ce qui fait que je donne rendez-vous à tous vos auditeurs chez moi cet été. C'est sur la route des vacances, sur la Nationale 7, ou un petit peu au-dessus, puisque c'est dans le Vercors. Et tout à l'heure, je donnerai le numéro de téléphone pour que les gens s'annoncent. Ils me diront, je suis un auditeur de Radio Courtoisie. Je leur dis, ben venez, il y a le pastis qui vous attend. Alors, je leur montrerai les documents, je leur raconterai un petit peu plus ce qu'on peut dire ce soir, et je répondrai aux trois questions essentielles, puisqu'il y a trois volets dans ce combat pour le respect de la vie que nous menons depuis 1973 avec les croisés du Sacré-Cœur. C'est d'abord les pèlerinages réparateurs des péchés publics de la France. C'était le principe moteur en 1973. Et pour le troisième centenaire des grandes apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, nous avons lancé ce qu'on appelait la longue marche réparatrice, qui nous a amené à Enzinel en Suisse, qui nous a amené à Pellevoisin, à Lourdes, à Marseille, à Paris. Et à Paris, comme on nous interdisait de pèleriner, chapelet à la main, eh bien on descendait dans le métro. Et on a pu ainsi bloquer depuis la statue de Jeanne d'Arc en 1977 jusqu'à Pigalle. Chaque station, on descendait, on faisait comme une chemin de croix dans le métro. C'était assez spectaculaire. Autre activité que n'appréciaient pas tellement les renseignements généraux de Paris, on a tombé le drapeau tricolore sur le palais Bourbon en 79 au moment du vote de la deuxième loi sur l'avortement. C'était symbolique et on a placé, on a mis le drapeau du Sacré-Cœur. Je l'ai dit des croisés, non, parce qu'il n'y avait que le Sacré-Cœur sur le drapeau. Rien d'autre, aucune autre couleur. Bon, on a réussi à monter sur le toit, c'était pas évident, en plein vote de la loi.
Et je pense qu'il y a dû y avoir un ou deux gendarmes qui se sont fait appeler Albert. Là.
Exactement, exactement. Et comme je me suis livré à la sortie en disant, ben arrêtez-moi parce que je voulais un procès, le commissaire ne voulait absolument pas m'arrêter. Il a fini par dire, j'ai des ordres, je ne voulais pas vous arrêter. Il m'a dit, puis alors le gars d'IRG me disait, mais attends, docteur, vous organisez toujours des processions, des trucs parfaitement définis, des marches, etc. Et puis après, en même temps, vous nous faites un coup à l'autre bout de la capitale. Ben, je dis oui, c'est pas chic. Il me dit, vous devriez me le dire. Alors, je dis quand même, oui, moi je suis l'IRG, je ne dirai pas au commissariat. Il m'a dit, je ne veux pas passer pour un couillon. Bon, ben, il est passé pour ce qui est trop tard. Voilà. Bon, entre autres coups que nous avons faits dans la capitale, on a occupé la Sainte-Chapelle. Toujours pendant le vote de la deuxième loi sur l'avortement. Toute une nuit, un prêtre nous a dit la messe au premier étage de la Sainte-Chapelle, en plein palais de justice, donc tous les symboles. On a également occupé le conseil de l'ordre des médecins, son bureau, pendant 3 heures. Et chaque fois, sans aucune interpellation, malgré tous mes désirs. Bon, alors maintenant, je ne désire pas être, hospitalisé ou incarcéré. Peut-être le serai-je, comme le commandant Lunel, mais enfin, on verra.
Comme le docteur Dorn, vous finirez par arriver à quelque chose.
Là-bas. Voilà, voilà. Mais enfin, ceci pour dire que je peux raconter plein d'histoires. Histoire de ce style que j'ai raconté d'ailleurs dans mon journal qui s'appelle l'univers des familles chrétiennes, maintenant c'est devenu l'univers tout court. Et pour la petite histoire, je peux vous dire que en 79, il y a un journal qui a relaté la chute du drapeau tricolore sur le palais Bourbon, c'est Jeune Afrique. C'est quand même original.
Bon, alors, c'est un très bon journal, vous savez.
Oui. Non, mais c'est pour la petite histoire, je raconte ça.
Ça s'appelle L'Intelligent.
L'Intelligent. Mais c'est vrai, moi je le lis avec beaucoup d'intérêt.
Alors, bon, j'ai peu de temps, donc je ne vais pas raconter tous mes coups, toutes mes... Et je n'appelle qu'à une chose, c'est faire les pentes, bon, par la prière. On a une victoire à notre portée, et vous allez voir comment. Donc, pèlerinage réparateur des péchés publics de la France, d'une part. Et j'en organise un avec l'association des Croisés du Sacré-Cœur, du 2 au 10 septembre en Pologne. Et nous allons de mémorial à mémorial. Alors là, je vous expliquerai tout à l'heure ce que sont les deux mémoriaux des innocents et un troisième en préparation en Égypte. Parce que c'est ce qu'on appelle les chantiers provis. Restons sur les pèlerinages réparateurs qui étaient le primum movens en 1973. De là, nous avons construit ces chantiers, dont le sanctuaire Saint-Joseph du Saint-Sauveur, qui est dans la Drôme. Et c'est pour ça que quand j'appelle les gens à venir me dire bonjour cet été, c'est à 50 km de chez moi, ce sanctuaire, ils peuvent s'arrêter, le voir, et voir d'où rayonne justement toute la spiritualisation du combat pour le respect de la vie, en France et dans le monde, avec l'appui de certaines personnes à l'étranger, et notamment de nos frères coptes en Égypte. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, bien sûr, c'est le troisième volet, parce qu'on a dit les pèlerinages réparateurs des péchés publics de la France. Un, les chantiers pour le respect de la vie. J'hésite à vous en parler, je dis que je vous en parlais tout à l'heure, mais il y en a cinq. Il y a les trois mémoriaux, il y a le chemin de croix réparateur des crimes contre l'humanité qui part d'Auschwitz, malgré un certain nombre de personnes que je ne citerai point, qui ne veulent pas de croix en Pologne, et encore moins à Auschwitz, pour rappeler qu'il n'y a que la Shoah. Et qu'on n'a pas le droit de prier à Auschwitz. Eh bien si, nous on a lancé un chemin de croix qui part de la cellule du Père Kolb, 140 km plus loin, qui va à Częstochowa. Et bien sûr, là il faut des sous, parce que les bas-reliefs c'est du granit breton, 300 kg de granit par plaque de station, ça fait 100 000 francs le bas-relief. Donc c'est relativement cher, mais venez à la maison, je vous expliquerai un petit peu tout ça, je vous taperai. Bon, donc
ça sera le pastis le plus cher des vacances de gens qui s'arrêteront chez vous.
Ben non, non, exactement, non, ils annoncent ce qu'ils veulent. Et puis même, ils viennent pour l'amitié. Pèlerinage réparateur, les chantiers provis, dont ce sanctuaire, et on va de mémorial à mémorial. De mémorial à mémorial, dans ces pèlerinages de Pologne du 2 au 10 septembre, on va du mémorial de France, qui est un petit cimetière d'enfants, sans croix, qui représente le milliard d'enfants avortés en 1997. Deuxième mémorial identique en Pologne, dominant l'autoroute en France, dominant la campagne ukrainienne et polonaise en Pologne. Éclairer la nuit en Égypte, ce sera la même chose, mais ce sera en plein quartier musulman. Les Coptes sont courageux quand même. Je ne sais pas si nous, on oserait en plein quartier musulman mettre une croix de 7 mètres et quelques, illuminer la nuit.
Bon. Bah, c'est interdit, vous ne pouvez pas le faire.
Je sais.
Quelqu'un qui n'a même pas essayé de le faire dans un quartier musulman, il a essayé de le faire dans son village. Je vais publier d'ailleurs prochainement l'extraordinaire reportage que Pierre Guillaume a fait sur cette affaire. C'est une affaire énorme dans la campagne française. Il y a un gars qui a couple, qui a essayé de monter une croix de 7 mètres 38 de haut dans son jardin. On les a obligés à la détruire. Parce que la lumière de cette croix lumineuse gênait les voisins, alors qu'elle était 10 fois moins lumineuse qu'une enseigne de continent ou de je ne sais quoi qui était pas loin de là. C'est vraiment...
Enfin, là, le mémorial français illumine donc l'autoroute à hauteur de Tain-l'Hermitage, si vous passez l'été et l'hiver. Regardez, ça fait quand même plaisir et chaud au cœur de voir le mémorial des innocents illuminé dominant l'autoroute, à hauteur du bon vin de Tain-l'Hermitage, des Crozes-Hermitage, des Saint-Joseph, justement. Enfin, bon. Alors, si vous voulez faire ce pèlerinage de mémorial à mémorial, et bien passez à la maison, je vous donnerai le programme du 2 au 10 septembre. Hein. Et inscrivez-vous vite en mieux téléphonant. Mais alors, pour conclure sur quelque chose de formidable, c'est le Lépante qui est à notre portée. Et je vais vous poser une question à toutes et à tous. Si demain, nous arrivons à remplir nos cathédrales, oh quel utopiste, direz-vous. Ben, comment, dans un diocèse, ne remplir qu'une cathédrale une heure par mois? C'est pas si utopiste que ça. Et je connais quand même beaucoup d'amis qui vont à Saint-Eugène, qui vont à Saint-Nicolas, qui vont à Sainte-Cécile, qui vont partout. Et puis même encore plus partout, qui vont au Sacré-Cœur, qui vont à Notre-Dame. Bon, tout le monde, mais d'abord nos réseaux d'amis, peuvent remplir ces cathédrales. Si nous les remplissons, ben nous allons, comme on dit maintenant, interpeller le clergé, l'obliger à dire ce qu'il n'a jamais osé dire, c'est-à-dire parler comme le pape, et s'opposer aux lois, et mobiliser le reste de la chrétienté pour remplir non seulement les cathédrales, mais aussi les églises. Et alors, à ce moment-là, dans notre beau royaume de France, puis si on peut encore parler d'un royaume, enfin, on peut toujours rêver et espérer, c'est une vertu, l'espérance, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, que se passera-t-il? Je pense pas que les problèmes politiques resteront inchangés. C'est pas possible. Je pense pas que les problèmes militaires resteront inchangés. Si nous réalisons un nouveau Lépante en étant une heure par mois dans nos cathédrales, dans toute la France, ça va bouger. Alors, pour l'instant, toutes les cathédrales, ou presque, sont concernées en France. Et dans la région parisienne, il y avait quelques trous. Le mois dernier, ils ont été comblés. Et C'est donc très agréable aujourd'hui de vous rappeler et de rappeler à tout le monde que toutes les cathédrales vont fonctionner le premier samedi de juillet, puisque c'est tous les premiers samedis à 17h dans toute la France et même ailleurs en Europe que ça a lieu.
Alors, c'est pas à la cathédrale d'Évry quand même.
Alors justement, c'est là où je voulais revenir. Alors c'est, on veut aller au cœur du diocèse pour porter le fer dans la plaie. Moi, je suis médecin, donc je suis pas chirurgien, je suis homéopathe. Enfin bon, c'est une réaction médicale. Tout à l'heure, les militaires avec leurs pistolets, quand ils sont pas politiques, on a envie de porter le fer dans la plaie.
Les gélules de fer, en l'occurrence.
Voilà. Et pas Gaston. Hein. Toujours est-il que on va dans, au cœur du diocèse, basilique ou cathédrale. À Lyon, c'est à Fourvière, à la basilique. Et dans le diocèse d'Évry, eh bien, ce n'est pas à Évry même, c'est à Lompon. Notre-Dame de Lompon est peu connue, c'est Notre-Dame de Bonne-Garde, et il y a pratiquement toutes les reliques de chrétienté que les différents évêques de chrétienté ont envoyées au fur et à mesure à Lompon. Alors je ne vais pas vous en parler maintenant, il y a un animateur de résistance catholique qui est une association qui se crée dans le diocèse d'Ivry qui vous en parlera certainement un autre jour, mais c'est absolument fantastique. Et d'ailleurs c'est un animateur de résistance catholique qui est le secrétaire de la coordination des rosaires pour la vie pour le diocèse d'Ivry. Alors il faut quand même bien comprendre une chose à propos des rosaires pour la vie, c'est qu'on nous dit toujours, je suis le président de l'association des rosaires pour la vie. Il n'y a pas d'association des rosaires pour la vie. Il y a une coordination internationale dont je suis le secrétaire, point à la ligne. Et ensuite, il y a des coordinations par région, et pour l'Île-de-France, c'est monsieur Alain Guillaume dont je vais donner le téléphone. Et pour ensuite, il y a des coordinations par diocèse, mais qui appelle toutes les associations à répondre et à venir. Alors il se trouve que l'animateur de Lompon, pardon, c'est un responsable d'une association nouvelle qui s'appelle Résistance Catholique. Et si je peux faire une petite annonce, elle n'est pas pour moi justement. C'est ça qui est merveilleux dans une coordination. C'est que Résistance Catholique, dont je ne fais absolument pas partie, organise un repas mardi 27 juin. Et il y aura, je vais vous donner un téléphone parce que je ne connais pas exactement le texte. Il y a un chapelet à la chapelle du Saint-Sacrement de Lompon après la messe de 18h30. 20h, repas tiré du sac et inscription pour une autre veillée. Voilà, alors je vous donne le téléphone des responsables de Résistance Catholique qui s'occupent du rosaire pour la vie de Lompon. C'est le 01 48 94 77 66. Je vous donne également...
Pour répéter.
Je répète, 01 48 94 77 66 pour Lompon. Et également par voie de récurrence, Résistance Catholique. Le numéro de téléphone du responsable de la coordination d'Île-de-France, M. Alain Guillaume, 01 43 87 81 70, je répète, 01 43 87 81 70. Mais alors, mon téléphone personnel, parce que si je lance des invitations pour le pastis, amener le maillot aussi parce qu'il y a la piscine, amener les bottes parce qu'il y a les chevaux, bon, on peut s'amuser un petit moment.
Combien de temps on peut rester?
Bon, ben, il y a un bon hôtel à côté. Enfin, la maison
vous
est grande.
Vous allez avoir des squatteurs.
Voilà, non. Mais si vous remarquez, je n'ai pas donné mon adresse personnelle. Ah, voilà. Alors, si on veut m'écrire, on écrit par le biais du sanctuaire Saint-Joseph du Saint-Sauveur. Sanctuaire Docteur Villette, donc 2 L et 2 T comme la Villette, Sanctuaire Saint-Joseph du Saint-Sauveur, 26 600, Chantemerle-les-Blés.
Oh, c'est
voilà.
Un rêve. Une
c'est un rêve. Rêve, c'est à 50 km de chez moi. Alors, comme je dis souvent, à Chantemerle-les-Blés, il y a 3 églises, parce que nous avons battu De Gaulle qui n'en avait que 2. Et à Chantemerle, il y en a 3. Il y a une église romane qui remonte à Adhémar de Monteil, qui a une Vierge Noire, qui est la Vierge Noire du Puy, qui a été mutée. Une église plus récente. Et puis l'église du Saint-Sauveur, que nous avons reconstruite, qui avait été détruite par les Huguenots, parce qu'on venait boire, les catholiques venaient boire une eau dite miraculeuse, et ça leur déplaisait. Voilà, donc vous avez des tas de choses à voir dans le coin.
Ah, c'est sacré, Huguenots, ils n'en feront jamais l'autre.
Je vous demande de préciser, oui. Alors, Docteur Villette, Sanctuaire Saint-Joseph...
Du Saint-Sauveur.
Du Saint-Sauveur.
Voilà.
Et après
sur le lieu dit de Saint-Sauveur, puisque c'était là que les Huguenots ont détruit l'église du Saint-Sauveur pendant les guerres de religion.
26 600,
Chantemerle-les-Blés. Les Blés. Voilà.
Oui. Alors, oui, c'est tout à fait français, c'est un nom français. Ce numéro de téléphone, est-ce
personnel.
Que vous allez le donner?
Ce sera le numéro de la fin. Alors, non, je vais le dire deux fois. 04 75 25
11 et 88. Alors ça, c'est mon numéro personnel. Hein. 04 75 25 11 88. Voilà, je vous remercie de votre
attention. Merci, docteur Villette. Alors, tenez-nous au courant de...
Une question. Quels sont vos rapports avec le docteur Dor?
Oh, excellent. Excellent. D'ailleurs, les rosaires pour la vie sont, si vous voulez, une conséquence des manifestations que nous avions faites avec lui. Si j'ai 2 minutes, je peux le dire. Parce que c'est très intéressant, justement, comme question. Il y avait les opérations Rescue aux États-Unis, il y avait les opérations Madame Fontana, il y avait les opérations du docteur Dort, SOS tout petit. Et j'en ai fait avec lui, aussi bien à la clinique Sainte-Jeanne d'Arc, et je l'ai invité dans ma province, à Grenoble, à Tournon, en Ardèche, et également à Valence. À Valence, on a failli se faire lyncher. Ça a été très très dur et la police refusait d'intervenir en disant tant qu'il n'y a pas de blessé, on ne vient pas. Bon, merci monsieur le maire UDF de Valence. Ça, c'est un petit clin d'œil en passant.
Oui, vous pouvez me dire autant de mal que vous voulez de l'UDF, ça ne me gêne pas.
Oui, vous d'accord.
Et vous pouvez dire du mal de qui vous voulez, maintenant ça ne me gêne plus du
voilà.
tout.
Bon, alors, ce qui était intéressant, c'est que on s'est rendu compte à travers l'évolution de ces opérations Rescue, de Madame Fontana, du docteur Dor, qu'il y avait une graduation dans la force, je n'ai pas dit dans la violence, dans la force d'application de la prière. Et j'ai lancé une opération que j'appelais avocat pèlerin. C'est-à-dire qu'il y avait 3 personnes qui allaient sur rendez-vous discuter avec le médecin avorteur pendant qu'il y avait un groupe qui priait à la cathédrale du coin. J'ai fait ça sur 10 cathédrales, comme Vichy, Clermont-Ferrand, etc. Bon, j'ai avancé. Et la conclusion était la suivante. Partout, les médecins avorteurs m'ont dit, docteur, mon cher confrère, j'arrête demain les avortements, ça me dégoûte, je suis pas un tueur, j'en ai marre. J'en ai marre, mais attention. Je continuerai à tuer si vous n'avez pas des gens, puisque je leur disais, il y en a qui prient là-bas à la cathédrale. Je continuerai à tuer si vos gens n'arrivent pas à m'empêcher de tuer, parce que je suis obligé de tuer, parce que on me le demande. Alors occupez-vous, aidez-moi à ne pas tuer, occupez-vous charitablement de toutes ces femmes qui sont dans le besoin, certaines, d'autres c'est pour s'amuser. Mais il y en a quand même qui ont des problèmes.
Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça pour s'amuser. Je crois qu'il y a vraiment des...
Non, mais il y a des gens qui partent en vacances. Mais, bon, il y en a qui sont... On est dans l'époque de vacances, il y en a qui font...
Mais moi, effectivement, je suis il faut accompagner ça d'initiatives comme celle du docteur Tremblay.
Exactement. Alors finalement, on s'est dit, puisque ça ne sert à rien d'aller voir les médecins avorteurs puisqu'ils sont d'accord, il faut susciter des générosités compétentes, parce que ce n'est pas parce qu'on est généreux qu'on est compétent. Il faut ensuite trouver du travail à la femme après son avortement. Il faut réinsérer l'enfant qu'on a sauvé, enfin réinsérer la femme, et l'aider dans l'éducation de l'enfant. Donc il y a tout un travail, et il fallait susciter des générosités compétentes. Et ça a été la finalité des rosaires pour la vie. Donc c'est un petit peu l'aboutissement de tout ce qu'a fait le docteur Dor, justement. C'est de dire, il faut susciter ces générosités compétentes.
Merci docteur, merci. Alors, je me tourne maintenant vite vers Bruno Nougaret et Armel Deribert Desgardes qui vont nous annoncer est-ce que c'est un pèlerinage ou une...
Alors non, c'est pas du tout un pèlerinage.
Une nuit d'été.
C'est pas non plus.
Non, c'est bon. Encore, voilà.
Bon. Je vais vous présenter un petit peu, voilà. Déjà, jeune chrétienté. Je pense que certains de vos auditeurs ne savent pas exactement ce qu'est ce mouvement. Donc, c'est un mouvement de jeunes laïcs, j'insiste sur ce point, qui a pour vocation principale de faire de l'apostolat auprès de la jeunesse actuelle. Bon, je pense que tout le monde peut se rendre compte que la jeunesse actuelle manque quelque peu de repères. Et nous avons vocation à essayer de leur rendre quelques-uns de ces repères qu'ils auraient pu perdre ou qu'ils n'ont jamais eus. Alors, pour ce faire, Jeune Chrétienté organise un certain nombre d'activités tout au long de l'année, et notamment en été, ce qui est la principale activité de notre mouvement, un grand camp, donc qui dure 3 semaines, cet été il durera même un petit peu plus, 25 jours il me semble, grand camp au cours de laquelle ces jeunes donc, que l'on fait venir en tractant, par annonce, grâce à votre concours ce soir, ces jeunes-là vont découvrir que d'autres jeunes... qui ont les mêmes problèmes qu'eux, qui ont les mêmes inquiétudes qu'eux, ces jeunes-là peuvent avoir une vie authentiquement chrétienne, une vie de prière, et être autant des catholiques dans le monde d'aujourd'hui. Donc si vous voulez, notre camp d'été est plus un camp missionnaire, c'est-à-dire que c'est un camp au cours duquel on va pouvoir présenter un petit peu Jeune Chrétienté et réaliser ce qui est le but de Jeune Chrétienté, le fondement de Jeune Chrétienté, l'apostolat de jeunes par des jeunes. Donc voilà qu'est le camp d'été.
Alors, Armel Deribert Desgardes, vous êtes, quel est votre rôle dans cette organisation, dans cette association?
Eh bien, cette association est dirigée par ce qu'on appelle un triumvirat. Donc, c'est-à-dire
me plaît beaucoup.
Et c'est très pompeux. En fait, triumvirat, c'est complètement impropre puisque nous sommes 2 filles et un garçon à la tête. Donc, le garçon Bruno Nougaret est président.
C'est un triumvirat dont comment vous diriez ça, un bigama?
Non, non, on applique la parité, si je peux me permettre. Bah,
triumvir.
C'est parfait. La
triumvir,
c'est...
Elle est dans un sens.
C'est pas bien que vous dites le tertio.
Un tertio, voilà. C'est parfait. Alors.
Donc voilà, deux filles. Donc un président, Bruno Nougued, et deux coprésidentes, donc Marie-Élise Chauvière et moi-même. Et donc, nous nous occupons tout ce qui est organisation matérielle des camps et voilà, tout ce qui est encadrement des activités de l'année.
Oui, parce qu'il faut bien le dire, donc le mouvement est scindé en un certain nombre d'équipes, d'une douzaine de personnes environ. Donc c'est un mouvement national, je ne l'avais pas dit, donc nous avons actuellement des équipes en région parisienne principalement, parce que bon, bah, pour diverses raisons, nous avons eu, pour diverses raisons historiques, et nous avons eu plus d'équipes en région parisienne. Nous avons aussi des équipes tout de même, il faut le souligner, donc à Brest, en Bretagne, sur la ville de Chambéry, la ville de Grenoble. Nous avons actuellement de très bons espoirs sur des villes comme Lyon, Nantes, Toulouse. Ville sur laquelle nous aimerions nous développer. Alors, parce que
vos activités, c'est essentiellement des camps d'été.
Alors, nous avons deux camps principaux dans l'année. Il y a un camp d'été, donc, que je vous ai présenté tout à l'heure, et un camp d'hiver. C'est-à-dire, pendant une semaine, nous partons au ski, parce que le ski, aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, c'est une constante. Tout le monde part au ski. Donc, il est beaucoup plus facile de faire venir des gens qui ne sont pas catholiques. Vous ne partez pas au
ski. Oui, c'est des pièges, quoi. C'est... Donc, vous les piégez, vous dites, venez faire du ski. Vous
ah, pas du tout. Ils savent qu'ils vont à Jeune Chrétienté. Alors, même de temps en temps, obligé de les rassurer, de leur dire, oh, n'ayez pas peur, il n'y a pas beaucoup de prières, vous allez voir, juste le matin, le soir.
Un peu à midi quand même pour le...
Un petit peu. On leur demande juste de venir à la messe du dimanche. Si vous voulez, il n'y a aucune obligation. Ce mouvement est ouvert aux catholiques et aux non-catholiques. Je ne crois pas que ce soit une histoire de piège. Je pense qu'on leur présente, ils savent qu'on va leur présenter quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément. Et cette présentation leur est souvent fort bénéfique.
Alors ce camp d'été, il a quelle forme? C'est un camp sous la tente?
Alors c'est un camp itinérant, en plein air.
Vous les faites prier ou les faites marcher?
Alors, on les fait prier très peu, comme je vous l'ai dit. On les fait marcher presque encore moins, parce qu'en Italie, il fait chaud tout de même. On a pitié d'eux. Et si vous voulez, donc, nous allons partir de... En fait, il y a deux camps cet été. Donc, il y aura deux itinéraires un petit peu différents. Mais bon, les deux couvriront les villes de Florence, Sienne, Assise et Rome, à peu près.
Très beau, très bien.
Donc, si vous voulez, en général, on part dans des pays dans lesquels il y a un fort patrimoine historique religieux. C'est-à-dire dans lesquels ils vont pouvoir découvrir, là encore, la source de ce qu'ils voient chez les jeunes qu'ils fréquentent pendant ce camp-là. Alors, le principe du camp, donc, les équipes d'une dizaine de personnes sont indépendantes, sont libres pendant toute la semaine, et le week-end, on se retrouve tous dans des lieux fixés, afin de se réunir et d'avoir, si vous voulez, un certain nombre de, je dirais, un peu plus de discussions beaucoup plus approfondies, avec sous forme de topos qui sont faits par des animateurs, toujours par des jeunes, parce qu'on n'a pas intérêt à leur exposer de façon doctrinaire quelque chose venant d'en haut, il faut qu'ils voient que ça vient d'autres jeunes. C'est toujours dans le même esprit pédagogique. Et nous retrouverons cette année, nous allons profiter tout de même des Journées Mondiales de la Jeunesse qui vont être le grand rendez-vous de l'année pour les jeunes, puisque nous sommes dans une année jubilaire et que le jubilé des jeunes, ce sont les JMJ, trop souvent on l'ignore. Comme nous sommes un mouvement d'église, un mouvement de jeunesse catholique, nous devons participer à ce rassemblement. Donc nous y serons pour la veillée du pape, la veillée autour du pape, donc le 19 août au soir, et nous y serons pour la messe pontificale qui sera célébrée le lendemain, le 20 au matin.
Bien, alors il vous reste à donner le numéro de téléphone magique qui va vous permettre de recruter de quoi faire 250 équipes de 10 personnes,
ce qui serait
exactement
tout à fait merveilleux.
Donc pour nous contacter, il faudra téléphoner au 01 46 57 77 87.
On va le répéter.
Voilà, donc 01 46 57 77 87 ou nous écrire à Jeune Chrétienté, 84 avenue Aristide Briand, 92 120 Montrouge.
La question qui tue, quel est le prix du camp?
Alors le prix du camp, ça ne tue pas du tout à mon sens. Le prix du camp est fixé à 3300 francs tout compris pour les 27 jours. Ou 26, voilà, je rajoute pour attirer le chaland. Mais de toute façon, s'il y avait un moins de problèmes financiers, nous sommes là justement pour aider. Et certaines familles, que je remercie déjà, nous aident beaucoup par leurs dons pour faire partir des gens qui donc n'auraient pas la chance de pouvoir participer à nos activités.
Mais si j'avais encore des enfants qui m'obéissent, je les enverrais là-bas. Parce que 3300 francs pour 25 jours, je vous assure que c'est vraiment un placement très intéressant.
Ah, surtout qu'ils en reviennent transformés, bouleversés. Que
enchanté.
Encore.
Merci beaucoup.
Mais de rien, c'est nous qui vous remercions.
Et maintenant, vite, vite, on fait passer, parce que là on parle de l'université d'été de légitimiste. Alors, Jean-Claude Nicolas Chautard et Guy Belcourt, vous n'aviez pas de questions, j'imagine, Marie-Camille a posé
non,
à ces jeunes
non,
gens.
Non, c'est très intéressant.
Ils sont sympathiques. Hein.
Oh, très,
quand on a 10 000 des jeunes, on pense...
Et puis quand
c'est
ils
emmènent
d'autres jeunes à Florence et à Sienne,
voilà,
on peut applaudir.
Voilà, oui,
applaudissez.
Et quand ils sont dirigés par un tertio, en plus, ça doit plaire à Emmanuel, donc tout le monde sont contents. Il nous reste donc 5 minutes pour présenter l'université d'été légitimiste. Et c'est Nicolas Chautard et Guy Belcourt, mon fort.
Montfort qu'ils font, Guilbert-Montfort, ça se passe chez vous, je crois.
Voilà, c'est ça, oui.
Dans votre beau château.
Le château de l'Auberdière,
en Anjou. C'est un endroit merveilleux. Alors, il faut vraiment... c'est un endroit magique.
C'est vrai, l'Anjou est très agréable. Non, mais même à côté de la forêt, en plus.
La maison est belle.
Voilà, la maison elle-même
ici. Avec une chapelle qui est merveilleuse. Très très jolie. Elle est toujours là, la petite.
Elle est toujours là, oui.
Tombée.
Heureusement, oui.
Elle n'a pas été victime de... Je vous voyais prendre un air vague. Alors, Nicolas Chotard, vous êtes président, secrétaire général
administrateur de l'Université d'été légitimiste. Donc, nous sommes venus vous présenter la 8e Université d'été légitimiste, qui se tiendra donc au château de M. de Bellecour. Et donc, cette année, le thème, c'est « Quel pouvoir demain ?» C'est pour donc on estime que la légitimité a encore un avenir en France, dans notre cher pays. Et donc on pense que les royalistes doivent cesser d'être toujours des nostalgiques d'un temps passé qui ne reviendra certainement pas. La France de Louis XX n'a plus grand-chose à voir avec celle de Charles X.
Enfin, vous savez donc, que quand on dit que les monarchies doivent être modernes, en général, ça tourne très très mal, ça finit avec renouvel. Hein, donc soyez quand même prudent.
Oui, disons qu'un légitimiste du 21e siècle doit être à la fois fidèle à la tradition tout en étant de son époque. Hein.
Est-ce qu'on est obligé de faire du skateboard pour être un jeune?
La modernité... La modernité a un sens plus large. Il ne se réduit pas qu'à des choses bassement matérielles.
Qui seront les invités de votre université d'été?
Donc, il y a une douzaine de conférenciers. Il y a tout d'abord Yves-Marie Adeline qui évoquera la solution royale. Il y aura l'amiral Berger qui traitera du bien commun et de l'autorité, le professeur Pelletier de l'ère des faux-semblants, le professeur Néry de l'idée royaliste chez quelques écrivains contemporains comme Déon et Raspail, Jonathan Ruiz Chastenay définira la légitimité comme romaine à la crise, Philippe Pichot-Bravard planchera sur les fruits de la Révolution ou l'exil de Dieu, tandis que le révérend père Charles Roux, qui célébrera aussi le dimanche la grande messe, évoquera l'État selon la foi. Quant à Thomas Grimaud, qui est bien connu de nos auditeurs de Radio Courtoisie, il évoquera son thème favori, qui est la défense des chrétiens en Afrique. Michel de Poncin, lui, parlera bien sûr de l'économie ou l'ordre social chrétien. Quant à Nicolas Tandler, grand spécialiste des questions internationales, il évoquera la politique étrangère demain en Europe et en Afrique. Enfin, Guillaume Fay évoquera la colonisation de l'Europe. Et donc, pour terminer, Monsieur de Bellecour parlera des questions pratiques.
Oui, alors, pratiquement, ça se passe à quel endroit on le sait, puisque c'est dans votre maison. Mais vous
c'est pouvez... en Anjou, si vous voulez préciser, voilà. En Anjou, c'est-à-dire entre Angers et Tours, ou Le Mans et Saumur. Alors, on n'a pas cité aussi, il y a une conférence d'Alexandre Delval, La Grande Europe des Nations, qui aura lieu le dimanche après-midi à 15h, qui est une journée porte ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut venir. Okay. Et on s'inscrit avant la journée avec un déjeuner buffet pour 140 francs.
Et toute l'université?
Alors, pour toute l'université, l'inscription, tout compris, c'est-à-dire conférence, excursion, repas et hébergement, pour les jeunes en dortoir, enfin les jeunes et les moins jeunes, en dortoir, disons 650 francs. En chambre, 3 personnes, 1100 francs. En chambre seule, 1500 francs. Ou en couple, si on vit en couple, 2250 francs.
C'est pas mal parce que si les dates correspondent comme c'est pas cher,
on peut les envoyer.
On peut démarrer aussi par là.
Ouais,
puis aller avec les jeunes de chrétienté.
À mon avis, on peut se débarrasser de ces enfants.
Ça vous fait des vacances économiques.
C'est bien, alors, l'adresse à laquelle on peut avoir les renseignements,
alors,
qu'est-ce qui vous arrive?
Château de l'Auberdière, 4950 Bossé, B-O-C-E, et le téléphone 02 41 82 72 03. Je répète le téléphone,
oui,
si vous voulez.
Si vous voulez.
02 41 82 72 03. De toute façon, on est dans l'annuaire. À mon nom, Guy de Bellecour, vous trouverez le
Et puis on donnera toutes ces informations dans une prochaine émission, et peut-être même dans le Libre Journal, qui est quand même assez proche de la légitimité. Alors Victoria, vous allez pouvoir enfin assouvir votre envie de dire des choses.
Pour vous demander, alors pour les auditeurs demandent s'ils peuvent obtenir des spécimens des journaux de la presse nationale.
Oui, ça je pense.
Pouvez-vous redonner vos adresses? J'ai Mondévi, je l'ai, Rivarol.
Alors donnez Mondévi.
Alors, non, mais il y
ils téléphoneront demain matin, on n'a pas le temps de leur
répéter. Alors, Rivarol.
Alors, 1 rue d'Hauteville, 7510 Paris. Le téléphone est 01 53 34 97 97 et ils peuvent m'envoyer un courriel gallic@rivarol.com.
C'est pas possible.
Emmanuel.
Bon, moi ça va être plus simple, je vais pas donner d'adresse parce que comme ça les gens retiendront mieux le téléphone, ils peuvent me laisser un message, il suffit qu'ils laissent leur adresse et je leur enverrai un exemplaire.
Voilà, très bien.
Donc c'est 01 40 16 80 92. Je répète, 01 40 16 80 92.
Et National Hebdo.
National Hebdo.
Bien, National Hebdo, 6 rue Vauguyon. Et téléphone 01 41 12 04 14.
Saint-Cloud. Saint-Cloud, mais oui, vous êtes des exilés.
Bon, alors j'ai une petite annonce à faire.
Et le Libre Journal, alors tout le monde s'en fout, c'est bien, c'est gentil. Bah, 4 places Francelet, 75-010,
Paris. Après le succès de la pièce Tovaritch l'an dernier, la troupe du théâtre des parents d'élèves et des professeurs de l'école privée Sainte-Dominique, troupe dite Hélène et Tatiana, jouera Je veux voir Miouçov le samedi 24 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Bailly dans les Yvelines et vous pouvez téléphoner à Madame Duboulet 01 39 73 94 18.
C'est une pièce très drôle, je l'avais vue avec Jacques Fabry.
Merci à tous, merci Marie-Camille, merci Jean-Claude Varane, merci Emmanuel Ratier, merci messieurs, merci Victoria, merci aux auditeurs, à la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6 à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre, vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé. Oh, je ne sais plus où j'en suis. Diffusé en direct mercredi 21 juin 2002, 18 à 21h. En différé jeudi 22 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.